Le don enveloppé de Dieu, prêché le 25 décembre 1960 au Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana. Et frère Graham Snelling à Utica, frère Stricker ici, notre missionnaire, et les frères qui sont pasteurs, frères, les différents frères ici, frère Parnell, et vous savez qui sont les associés ici, frère Junior Jackson, là d'en bas à New Albany, et ensuite les diacres et les administrateurs. Je vais vous dire ce que je désire faire. Cette semaine qui vient, prenez-vous une feuille de papier, écrivez-y les pensées ou les, je veux dire, les écritures ou concernant un devoir que vous devez vous occuper, auquel que vous ne connaissez pas. Comme un administrateur qui dirait, quel devrait être mon devoir si ce cas-ci survient? Quel est mon devoir en tant que diacre si cela survient? Et le pasteur pourrait dire, dans la parole ici, je vois où cela est supposé être, tel et tel, et je ne le comprends pas exactement de la manière que nous l'enseignons. Et l'endroit dans les Écritures, ainsi de suite, alors transmettez-le à frère Wood, si vous voulez bien, parce qu'il reste voisin de chez moi. Et aussitôt que vous aurez écrit les vôtres aussi vite que vous pourrez, je l'apprécierai, alors moi-même je pourrai le vérifier dans les Écritures, et nous aurons, pas seulement, ce n'est pas une réunion publique maintenant, c'est seulement pour les pasteurs et pour ce tabernacle, les diacres, les administrateurs de ce tabernacle. Et cela se fera aussitôt que nous les aurons. Ensuite, nous annoncerons un soir où il n'y aura pas de réunion ici, et alors nous nous occuperons de cela. Je pense que ce serait une bonne chose, frère Neville, et les frères, et vous les pasteurs, ainsi de suite, que nous nous réunissions ensemble. De cette manière, nous pouvons parler la même chose n'importe où, voyez-vous, car nous savons, et alors ce sera afin que l'Église puisse en bénéficier. Ou quelqu'un pourrait dire, eh bien, ceci, alors nous retournerons et nous verrons ce que cela dira sur la bande. Et nous avons des bandes de cette nature déjà. Et maintenant, nous avons de nouveaux administrateurs, je pense, cette année, et de nouveaux diacres, et ainsi de suite. Et nous aimons à ce qu'ils soient instruits là-dessus. Et ce petit frère, c'est un de nos frères d'ici, à Sellersburg, frère Willard Quaid. Soyez sûr de lui procurer un message de cela, si vous voulez bien, car il est tout jeune dans le Seigneur. Et si ces jeunes gens, je pense, s'ils peuvent s'établir, vous voyez ce que je veux dire, vous savez comment vous tenir. Et de petites questions viennent dans leurs pensées. Au lieu de courir à un extrême, réunissons-nous et voyons de quoi il s'agit. Ensuite, quand nous sommes dans les réunions, dans nos grandes réunions unies, quand les églises se réunissent ensemble, comme nous l'avons fait cette dernière session, alors nous saurions alors exactement quoi prendre et quoi dire, exactement quoi faire. Nous voulons tous parler le même langage, afin qu'on comprenne. Maintenant, une autre chose que je voudrais dire. Comme frère Neville vous a si bien dit, nous vous souhaitons le meilleur dans ces nouvelles périodes de Noël, dans ce temps de communion autour de ces jours saints et ainsi de suite. Et alors je veux prendre ce temps pour exprimer à chacun d'entre vous combien je vous suis reconnaissant pour vos cartes de Noël et pour vos présents, les choses qui ont été reçues à notre maison. Je vous en remercie certainement de tout mon cœur. Cela nous a certainement fait du bien ce matin quand j'ai un petit garçon. Et par contre, il est assez petit pour désirer avoir un arbre de Noël. Alors nous l'avons eu dans une pièce. Ce matin, en y allant, j'y ai trouvé quelques cadeaux de mon église ici, de mes amis de différents lieux. Tout cela était arrivé, et c'était là, reposant sous l'arbre. Et je n'ai pas de mots pour vous exprimer combien j'apprécie chacun d'eux. Et que le Dieu du ciel vous bénisse richement. C'est ma prière. Et maintenant, et vous savez comment cela serait, nous ne pouvons pas nous-mêmes leur envoyer des cadeaux parce que je ne gagne pas assez d'argent. Vous savez, j'obtiens 100 dollars par semaine, j'ai une grande famille et environ 10 millions d'amis. Alors ce serait assez dur de faire le tour, mais nous sommes reconnaissants pour vous et pour vos pensées. Je suis sûr que vous comprenez. Maintenant, n'oubliez pas le soir du Nouvel An qui vient. Oh, je me rappelle, cette première soirée de veille que j'ai eue dans ce tabernacle. Je suppose qu'il n'y a personne ici qui s'en souvient, mais ce fut un soir où le Seigneur avait enlevé beaucoup de raideur de votre pasteur. Alors nous nous attendons à avoir un temps merveilleux. Et maintenant, juste avant de prier, je veux lire la leçon d'écriture pour ce soir. Et je me débattais un peu avec moi-même aujourd'hui. J'avais annoncé que je devais parler ce soir si j'y arrivais sur « Nous avons vu son étoile dans l'Est et nous sommes venus pour l'adorer ». Cela me semblait un peu familier. Et notre bon ami, frère Sofman ici, un des administrateurs de l'Église, je lui ai demandé et il a dit « J'ai la bande de cela, frère Branham, vous l'avez prêché quelque part ». Et notre précieux frère Léo Mercier ici, le gaillard des bandes, a dit « Oui, environ 5 fois ». Alors, je l'ai changé juste un petit peu. Et au lieu de prêcher sur « Nous avons vu son étoile dans l'Est », je veux parler ce soir sur le sujet « Le don enveloppé de Dieu ». Et maintenant, je vais lire dans l'Évangile de Matthieu, le 2e chapitre, pour la lecture biblique, le 2e chapitre de Matthieu. Matthieu 2, 1 à 12. Or, après que Jésus fut né à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, voici des mages de l'Orient arrivèrent à Jérusalem, disant, « Où est le roi des Juifs qui a été mis au monde ? Car nous avons vu son étoile dans l'Orient, et nous sommes venus lui rendre hommage. » Mais le roi Hérode, l'ayant ouï dire, en fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Ayant assemblé tous les principaux sacrificateurs, et scribes du peuple, il s'enquit d'eux où le Christ devait naître. Et ils lui dirent, « À Bethléem de Judée, car il est ainsi écrit par le prophète, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement la plus petite parmi les gouverneurs de Juda, car de toi sortira un conducteur qui fêtera mon peuple Israël. » Alors Hérode, ayant appelé secrètement les mages, s'informa exactement auprès d'eux du temps de l'étoile qui apparaissait. Et les ayant envoyés à Bethléem, il dit, « Allez, et enquérez-vous exactement touchant le petit enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, en sorte que moi aussi j'aille lui rendre hommage. » Et eux, ayant ouï le roi, s'en allaient. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue dans l'Orient allait devant eux, jusqu'à ce qu'elle vînt et se tint au-dessus du lieu où était le petit enfant. Et quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une fort grande joie. Et étant entrés dans la maison, ils virent le petit enfant avec Marie sa mère. Et se prosternant, ils lui rendirent hommage. Ayant ouvert leur trésor, ils lui offrirent des dons de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Et étant avertis divinement en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin. Je veux y prendre un texte ce soir, non pas de là, mais de la même histoire, dans Saint Luc 2, 7. Et elle mit au monde son fils premier-né, et l'emmaillota, et le coucha dans la crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Maintenant, inclinons nos têtes pour un mot de prière. Dieu saint et plein de grâce, qui nous a donné le plus grand don que ce monde ait jamais connu, le Seigneur Jésus, nous venons humblement à toi ce soir, en action de grâce, et exprimant du profond de notre intérieur les profondes adorations de notre cœur à toi pour ce don merveilleux. Nous n'avons rien à donner en retour. Tu as demandé très peu, seulement « Venez à moi ». Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je prendrai vos fardeaux et vos péchés, et je vous libérerai. Oh, quel échange! Personne ne pourrait faire cela autre que toi, notre Père. Et nous te remercions de ce que tu as fait cela pour nous. Et nous sommes tes témoins en cette heure, que tu prends nos fardeaux et nos péchés, et que tu nous donnes la joie et la paix au lieu de cela. Comme nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour cette expérience chrétienne, Noël dans nos cœurs. Nous sommes tellement heureux pour cela, tellement heureux de savoir que nous vivons dans la fin des jours, quand nous voyons les signes qui reviennent comme il en était en ce jour de son approche. Nous humilions nos cœurs dans ta présence, ô grand et noble Dieu, que ton esprit règne suprêmement dans notre cœur et dans nos vies, et fortifie-nous de l'intérieur jusqu'à l'extérieur, afin que nous soyons tes serviteurs dans cette grande et sombre heure à laquelle le monde fait face. Nous présentons la lecture de ta parole, Seigneur, afin d'être pour ce même but que de ceci le Saint-Esprit puisse y réunir un contexte qui serait suffisant ce soir comme message de Noël pour ton peuple qui attend. Et nous nous attendons à toi, Seigneur. Circoncis les lèvres qui vont parler et les oreilles qui vont entendre. Et donne la puissance et mets la vie dans les paroles qui sont apportées, afin que cela nous conduise à une meilleure connaissance du Seigneur Jésus. Car nous le demandons en son nom. Amen. J'ai écrit plusieurs écritures auxquelles je peux me référer, ainsi de suite. J'étais dans l'étonnement hier quand j'ai entendu cela. J'ai pris le journal et où il y a ce que le monde commercial appelle un Noël plein vert. Là où il y a eu plus d'argent dépensé cette fois-ci qu'il y en a eu dans plusieurs années depuis bien longtemps, il y a bien des années. Et que les foules s'étaient réunies à Jérusalem et comment il y avait un petit temps de paix entre les Arabes et les Juifs. Et ils ont, disons, oublié leurs sentiments et laissé les étrangers entrer dans la ville à nouveau dans cette période de Noël. Et je me suis souvent demandé pourquoi cette ville avait été choisie, Bethléem. Et comme ces gens ont chanté il y a juste quelques instants, ce jeune homme et sa femme et ses enfants, j'étais étonné, surveillant la petite fille, comment elle tenait le temps avec ceci, cette sorte de harpe à cordes dont elle jouait. Et comment cette toute petite, à peine un bébé, mais elle tenait le temps exactement avec le... où jouer sur cette harpe. Je suppose que cela s'appelle une harpe. Maintenant, ensuite, pensant à Bethléem, pourquoi cela arriva qu'elle fut choisie pour être le lieu natal du roi des rois. Et vous savez, Bethléem, c'est une petite place, une toute petite ville. Je me suis souvent demandé pourquoi Dieu n'avait pas choisi un endroit plus religieux pour cela, pour ce grand événement tel que Shiloh. Shiloh fut le premier endroit où la tente, l'arche, fut déposée après avoir traversé le Jourdain. Ou Gilgal, une autre cité très religieuse. Ou Sion, sur la montagne, une autre cité très religieuse. Ou même la fière capitale de Jérusalem, avec tous ses sages et ses saints au travers des âges. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas choisi Jérusalem? Pourquoi choisirait-il Bethléem? Peut-être qu'il semble qu'il aurait choisi un endroit, une des grandes villes de refuge, qui aurait protégé son fils au cas où il arriverait du trouble. Les lieux de refuge comme Ramoth-Gilead, c'était un grand refuge qui fut bâti parce que les gens pouvaient y courir dans ses tours. Ou Kadesh fut une autre grande cité de refuge. Hébron fut une autre grande cité de refuge. Pourquoi Dieu a-t-il choisi la petite Bethléem? Et ensuite, n'a-t-il pas choisi ces plus grandes cités? Elles avaient de plus grands noms et un arrière-plan plus spirituel. Mais vous savez que Dieu a sa propre manière de faire les choses. Je suis si content qu'il le fait ainsi, voyez-vous? Parfois, il prend des choses qui n'ont pas d'arrière-plan du tout. Et c'est pour cela qu'il est Dieu. Il peut prendre quelque chose qui n'est rien et en faire quelque chose. Et ensuite, c'est ce qui fait de lui Dieu. C'est ce qui nous fait l'aimer. C'est ce qui fait que nous, les gens pauvres, nous l'apprécions. Parce que même si nous sommes pauvres, sans arrière-plan, par contre, Dieu peut faire de grandes choses avec nous, s'il peut parvenir à nous avoir sous son contrôle. Josué, bien sûr, fut celui qui fit traverser les enfants d'Israël. Et il a divisé les terres. Et cette tribu de Juda, il lui fut donné cette portion où est Bethléem, ce qui est dans le coin au nord de la province de Juda, une petite bande qui ressort comme une petite péninsule. Et dans cet endroit, cette province, où fut la ceinture de blé, où il cultivait beaucoup de blé et d'or. Et l'un des fils de Caleb a établi et fondé cette cité. Salma était son nom, et il était un des fils de Caleb. Si vous voulez le vérifier, je passe par-dessus beaucoup des écritures, mais je vois que quelques-uns des frères ici prennent note. Alors dans 1 Chronique 2.15, aussi nous trouvons dans Matthieu 1.5, où il a établi et fondé cette grande ville qui était une petite ville. Mais c'est à cause des grandes choses qui sont arrivées dans cette ville. Comme j'ai toujours dit, ce n'est pas la grande église, c'est le grand Dieu dans l'église. Ce n'est pas la grande montagne sainte, c'est le grand Saint-Esprit qui était sur la montagne. Ce n'est pas le Saint-Homme, c'est le Saint-Esprit dans l'homme. Alors c'est de la manière que fut cette ville. Elle était de petite stature, plutôt dans la vallée. Elle n'était rien d'extraordinaire à regarder. Sa population était peu nombreuse, et c'est encore la même chose aujourd'hui. Mais ce fut parce que Dieu l'a choisi pour faire quelque chose. C'est ce que j'aime, quelque chose que Dieu choisit. Peu importe ce que cela a l'air pour les gens, mais d'abord que Dieu l'ait choisi. Rahab, la prostituée, laquelle nous sommes tous familiers, elle étant une jeune fille, elle tourna là dans la rue un père et une mère qui étaient des païens. Ils l'ont mis là dans la rue parce qu'elle était belle. Elle devait leur apporter un revenu de la prostitution. Mais par contre, tout au fond de cette fille immorale qui fut envoyée dans la rue, elle avait entendu dire qu'il y avait un Dieu qui répond aux prières. Et la première occasion qu'elle a eue d'accepter ce Dieu ou de faire quelque chose pour lui, elle l'a fait. Et Dieu épargna sa vie et a sauvé son père et sa mère et sa famille. Elle tomba amoureuse d'un général dans l'armée d'Israël. Nous trouvons ça dans l'histoire. Elle maria ce général et leur fréquentation était merveilleuse. Et finalement, ils se sont établis et ils ont demeuré à Bethléem. Et par ce général, elle apporta au monde un fils. Le fils de... Oh, je ne puis même plus me souvenir du nom du général maintenant. J'essaie d'y penser. Je pensais que j'avais son nom ici, mais je ne l'ai pas. J'ai le nom de son fils à elle, mais ce fut le fils de Rahab que ce général lui donna. Son nom était Salomon. Pas le Salomon qui bâtit le temple, le fils de David, mais un autre, Salomon, et ce Salomon a emmené un fils qui fut appelé Boaz. Et Boaz, oh, nous sommes tous familiers avec la merveilleuse histoire de Boaz et de Ruth. Maintenant, voyez-vous, cette prostituée était des gentils. Elle était une ancienne grand-mère à notre Seigneur Jésus. Et alors quand Boaz, son petit-fils, vint et maria Ruth, la Moabite, il a aussi marié une des gentils, ce qui faisait de Jésus aussi partiellement un gentil si nous parlons terre à terre. Ensuite, quand ils apportèrent leur enfant, son nom fut Obed, et Obed a eu un fils, et son nom fut Jessé, et Jessé a eu un fils qui s'appela David. Et tout cela prit place dans la petite Bethléem. Qu'est-ce que c'est? La lignée du Seigneur Jésus. Son arrière-plan que ces grands hommes spirituels avaient laissé échapper, plutôt les soi-disant hommes spirituels. Et c'était sur cette même base que Samuel le prophète a oint David pour être roi sur Israël, juste ici à Bethléem. Et au travers de David est venu le grand-fils, toi, le fils de David, le fils qui est né dans une petite crèche d'écurie au-dessus du côté de la colline, du côté ouest de la ville. Ce fut là, sur cette colline, où les anges de Dieu ont chanté leur premier Noël. Le mot Bethléem, disséquons-le, B-E-T-H, ça veut dire maison. E-L, cela veut dire Dieu. E-L-H-A-M, cela veut dire pain. La maison du pain de Dieu. Oh, combien approprié cela était alors pour le pain de vie, de sortir de Bethléem, la maison du pain de Dieu. Oh, c'est une merveilleuse histoire. Cela a dû être juste un peu avant la noirceur, le soleil s'était couché, les étoiles étaient probablement sorties, la lumière était partie depuis environ 2 heures, et comme le petit âne plaçait ses petits pieds là-haut, le long du bas côté de la colline à l'ouest de Bethléem, alors qu'il regardait où il plaçait ses petits sabots, parce que sa cargaison était précieuse, Joseph le conduisait doucement tout au long. Comme le petit trio commençait à monter la colline, ils avaient voyagé tout le long de la journée, descendant de Nazareth. Elle s'attendait à être mère dans peu de temps. Elle était, et même, elle avait déjà passé la date pour cela peut-être. Mais toutes ces choses sont préordonnées par Dieu, qui elles œuvrent ensemble pour le bien de ceux qui l'aiment. Ce fut ordonné par Dieu qu'il devait y avoir un roi sans cœur en ce jour-là, ce Hérode assoiffé de sang. Dieu connaissait à propos de cela. Dieu connaissait à propos des taxes et comment ce gouvernement brutal n'avait aucune pensée de miséricorde pour cette pauvre mère qui était juste sur le point d'accoucher son fils premier-né, juste là dans quelques jours. mais il commanda qu'ils devaient tous venir de leur lieu de naissance pour payer les taxes. Peu importe la condition dans laquelle elle est, elle doit venir quand même. Dieu savait tout à propos de cela. Il avait préconnu toutes choses, et il connaît toutes choses, voyez-vous? Il fait œuvrer toutes choses pour le bien. Et le petit trio ne faisait pas d'histoire à ce sujet, alors qu'il montait la colline. Finalement, après beaucoup de grognements, le petit âne, « Oh, je puis les voir !» comme ils s'arrêtaient là au haut de la colline. D'où ils viennent, du côté ouest de Nazareth, traversant ici. Et alors, après qu'ils gravirent la colline, regardant la vallée où gisait la petite Bethléem, plusieurs torches brûlaient, plusieurs personnes s'étaient réunies de tous les alentours de la Galilée pour arriver à leur lieu de naissance, là à Bethléem, là dans la province pour être taxés par le gouvernement romain. Peu importe les conditions, ils étaient étalés le long des routes, les malades et les nécessiteux, et les alités, les lépreux, les cancéreux, les pauvres, les infirmes, les boiteux, les aveugles, tous devaient venir, parce que c'était un ordre du gouvernement. Et Hérode était au-dessus de cela. Cela devait être fait. Et comme notre petit groupe s'arrête dans le haut de la colline, il devait y avoir là une grosse roche qui se trouvait là. Maintenant, je peux voir Joseph la prendre tendrement dans ses bras, l'aider à descendre la petite mule et l'asseoir là, sur le bord du rocher. Et la petite mule qui cherchait son souffle. Et comme Joseph marchait quelques pas de l'avant, il regarda en bas dans la petite Bethléem. Il a vu les rues bondées, les grondements, les torches qui brûlaient dans les rues, les cris des gens. Ils étaient étendus dans les cours, dans les parvis, partout, en dehors des portes de la ville. Cela a dû être tout un spectacle. Joseph a dû dire quelque chose comme ceci. Ma chère Marie, pense-y, juste au-delà de la ville, sur le côté nord, c'est là où Ruth, la Moabite, a glané au fond dans les champs de Boz. Et là-bas, juste de l'autre côté de cela, par-dessus la montagne là-bas, c'est là que David, avec son lance-pierre, a jeté son lion au sol et lui a tiré le mouton de sa bouche. Et cela a dû être là, là où Josué se tenait, avec son épée luisante, le guerrier sans peur de notre peuple. Il a divisé les territoires et il a donné cet héritage à la tribu de Juda, de laquelle nous sommes dans cette lignée. Et toutes ces différentes choses. Oh, comment il a dû expliquer ce qui avait eu lieu. Et ensuite, n'entendre aucun bruit derrière lui, il a dû se tourner pour regarder, pour voir s'il était encore assis là sur le rocher. Et quand il s'est tourné, il a vu son beau visage tourné vers les cieux. Il n'avait plus besoin de demander, car la réflexion de l'étoile se voyait directement au travers de ses yeux. Il savait qu'elle regardait quelque chose. Et elle le regarda et dit, « Joseph, as-tu remarqué l'étoile qui pend là-bas ? » Et quand il regarda, tout surpris, il dit, « Oh, je ne l'avais même pas remarqué auparavant, chérie. Eh bien, elle nous suit depuis que le soleil s'est couché. Je l'ai surveillée, cela doit signifier quelque chose, parce que j'ai le plus merveilleux sentiment qui soit. » Vous savez, Dieu fait des choses comme cela parfois pour son peuple. Il nous montre une lumière, ou une manière dans laquelle on puisse savoir qu'il est prêt, qu'il est sur la scène. Et peu importe ce que le monde a à dire ou à faire, il est toujours là et tout va bien aller. Il ne fait que rendre témoignage de son retour par le Saint-Esprit de telle manière que nous pouvons le ressentir. Et Joseph a peut-être dit quelque chose comme ceci. Marie, sais-tu quoi? Je n'ai jamais été si heureux de toute ma vie. Quand j'ai été conduit ici par le gouvernement romain, mais par contre je n'ai jamais été aussi heureux que je suis maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Il semble qu'il y a une sainteté au-dessus de la petite ville ce soir. Nous avons erré lorsque nous étions des garçons et des filles dans notre adolescence et quand nous étions en âge de scolarité. Et là, tout au fond, dans l'Est, à plusieurs centaines de milles de là, les mages étaient déjà en route. Ils avaient vu son étoile. Ils venaient pour adorer le petit paquet cadeau de Dieu qu'il envoyait au monde. Juste à peu de temps de ce moment-là, et le monde allait recevoir le plus grand don qu'il n'ait jamais reçu. Un petit paquet qui était enveloppé. Un petit, le premier petit paquet de Noël qui n'a jamais été enveloppé dans tout le monde. Dieu l'a enveloppé. Et je veux m'arrêter sur ma pensée. Et je veux dire ceci. La plus grande chose qui ne fut jamais enveloppée dans une chair humaine fut enveloppée en cela. Dieu lui-même s'est enveloppé lui-même dans un paquet de Noël et il l'a envoyé au monde. Pourquoi l'ont-ils refusé? Pourquoi ne pouvaient-ils pas le voir? Pourquoi l'ont-ils rejeté? Pourquoi ne le voulaient-ils pas? C'est la même raison pour laquelle ils ne le veulent pas ce soir. Cela ne leur fut pas donné. La manière dont ils sont habitués à recevoir des dons, comme cela était donné, c'est la raison pour laquelle c'est rejeté ce soir, parce que cela n'est pas donné aux gens dans la manière qu'ils ont l'habitude de recevoir des dons. Mais Dieu enveloppa son propre paquet. Il a le droit de le faire. Il est celui qui le donne. Il a le droit de l'envelopper de la manière qu'il veut l'envelopper, de n'importe quelle manière qu'il veut l'envelopper. Cela ne fait aucune différence comment cela est. Il a le droit de le faire parce qu'il est celui qui donne le don. Une autre chose. La raison pour laquelle c'était comme ce fut alors comme ce n'était pas la coutume pour eux de le recevoir de la manière que c'était emballé, ils s'attendaient à quelque chose, un don qui viendrait, qui descendrait sur des chars avec un ange qui soit une escorte conduisant des chevaux de feu. Mais quand il vint comme un petit bébé, né dans une crèche, il connaissait très peu de ce que les Écritures disaient, « Je donnerai à ce monde un super signe. » Ils ont demandé pour un signe un jour. Il a dit, « Je vous le donnerai. Ce sera un super signe. Ce sera un signe qui durera au travers de tous les âges. Une vierge concevra et enfantera un enfant, un fils, et ils lui donneront le nom d'Emmanuel. » C'est le super signe. C'est le don que je vais donner. Mais ça n'est pas vu de la manière qu'ils l'attendaient. Et ils l'ont rejeté. Ainsi en est-il ce soir, mon frère. Le don de Dieu n'est pas vu de la manière que les gens voulaient que cela vienne. Alors ils l'ont rejeté. Ils ne le veulent pas. Ils le voulaient envelopper dans une sorte de marchandise dans laquelle ils veulent l'envelopper. Ils veulent que ce soit tout lamé sur cela. Ils veulent quelque chose de fleuri, quelque chose de parfumé, quelque chose qui scintille, quelque chose qui est classique. Mais Dieu ne l'envoie pas toujours comme cela. Il l'envoie dans la puissance de la manière dont il désire l'envoyer. Une autre chose, ce fut apporté par les pauvres. Marie Marie et Joseph étaient des gens très pauvres. Ils étaient des paysans. Et parce que cela fut apporté par les pauvres, ils ne le voulaient pas. Ainsi en est-il aujourd'hui. Quand le grand don de l'Église, le Saint-Esprit, tombe sur les pauvres et sur les humbles, les riches ne le veulent pas. Ils ne veulent pas s'humilier eux-mêmes. Ils le veulent avec de la classe, mais ils ne le veulent pas de la manière que Dieu l'envoie. Plusieurs personnes veulent recevoir le Saint-Esprit, mais ils veulent le recevoir de la manière qu'ils le désirent. Mais, oh, je suis si heureux que vous ne puissiez pas le faire de cette manière. Vous devez le faire de la manière que Dieu vous l'envoie. Et vous humiliez vous-même pour le recevoir. Il ne fut pas enveloppé dans de fin lin, il fut enveloppé dans des langes. Et je suis enseigné que la chose même dans laquelle Jésus fut enveloppé, lui le Christ, c'était quelque chose qui était pris du dos d'un joug de bœuf qui pendait là dans l'écurie. Il était enveloppé dans un lange, là où il place un chiffon autour du joug du bœuf afin de l'empêcher de frotter, de se faire une ampoule quand il tirerait. Il n'avait même pas de vêtements pour lui. Et il, oh, quand je pense à cela, cela me brise quasiment le cœur. Pas de vêtements pour Emmanuel, le créateur du ciel et de la terre. Et pas de vêtements pour lui, pour se vêtir. Il devait être enveloppé dans le linge par lequel un bœuf avait travaillé tout au travers de son cou. Oh, quel super signe! Ce devrait être très attrayant pour les gens. Mais le petit Jéhovah, pleurant comme un bébé, Dieu fait chair dans un paquet, Dieu qui s'étend sur tout l'espace et le temps, qui était avant qu'il n'y ait un monde ou une étoile ou une molécule, s'est enveloppé lui-même dans un petit paquet et il fut déposé là dans une crèche, dans une écurie, où le fumier des bestiaux et des moutons, toutes ces choses, là, au-dessus de cette écurie, dans cette petite crèche, sur de la palme du poing, Jéhovah reposait là, pleurant comme un bébé. Pouvez-vous vous imaginer cela? Mais les riches ne voulaient rien comme cela. Cela polluerait leur propre pensée, quelque chose de si humble, et qui serait apporté par une petite fille paysanne, qui était considérée dans son voisinage comme une fanatique, et par un charpentier, qui connaissait probablement à peine son ABC. Comment pourrait-il jamais conduire à quelque chose qui pourrait tenter ou apaiser les yeux de la célébrité? Comment pourrait-il jamais qui plairait ou qui pourrait satisfaire les gens riches et d'esprit hautain ou les dénominations de leur jour? Ils furent simplement refusés. Non seulement ce jour-là, mais en ce jour aussi, ils le refusent tout simplement. Cela ne vient pas envelopper de la manière dont ils le voudraient. Ils veulent leur renoncer, disant, il n'y a rien à cela. Alors les riches et les dénominations refusent ce don. Ils n'ont rien eu à faire avec cela. Pourquoi? Pourquoi ferait-il une chose semblable? Cela n'était pas enveloppé dans la coutume de leur credo. C'est la raison pourquoi aujourd'hui, ils ne veulent pas le don de Dieu. Ces États-Unis ne veulent pas Dieu. Ces églises ne veulent pas Dieu. Ils veulent le Père Noël. Ils veulent quelque chose avec du lamé, des couleurs rouges, des choses brillantes, étincelantes. Ils ont refusé la vérité de l'Évangile, de la puissance et la résurrection de Jésus-Christ. Cela ne va pas s'envelopper avec leur credo. Vous ne pouvez pas envelopper Christ dans un credo. J'écoutais ce matin, comme j'allais chez maman de bonne heure, j'ai ouvert la radio. Et une église citait ou disait le... Comment appelle-t-on cela? Le credo des apôtres. Mais il n'existe pas une telle chose. Le seul credo dont les apôtres ont jamais eu ou qu'ils ont jamais connu, cela se trouve dans Actes 2:38. Repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est le seul credo que j'ai vu dans la Bible qu'ils ont utilisé. Mais cet autre est un credo fait par des mains humaines. Vous ne pouvez pas envelopper Christ dans un credo presbytérien, ou dans un credo baptiste, ou dans un credo catholique, ou dans un credo pentecôtiste. La seule chose dans laquelle Christ sera enveloppé, c'est dans votre cœur, pas dans votre credo. Il veut votre cœur. Il a une tour de contrôle là-dedans, dans laquelle il aime œuvrer avec vous et vous conduire à la vie éternelle. Il ne veut simplement pas accepter. Vous ne pouvez pas l'envelopper dans des credos. Vous ne le pouviez pas alors, vous ne le pouvez pas maintenant, vous ne serez jamais capable de le faire. Alors ils ne pouvaient pas le recevoir, parce qu'ils estimaient mieux leur credo qu'ils n'estimaient le don. Pas surprenant qu'il n'y avait pas de place pour lui à l'auberge. Non, pas enveloppé correctement. Cela n'était pas enveloppé avec le papier classique autour de cela. Il était enveloppé comme un don. Comme un don de Dieu, envoyé de Dieu, un Dieu dont il ne connaissait rien. Il proclamait qu'il le connaissait, et il proclamait qu'il le cherchait, mais il n'est pas venu dans la manière à laquelle il pensait, ou dont il pensait qu'il viendrait selon leur credo. Alors il ne pouvait pas recevoir le don de Dieu. Il était enveloppé différemment, il était enveloppé comme un bébé. Il est né dans une crèche, il est venu par des gens pauvres, il est venu d'un groupe de fanatiques. Alors, comment pouvait-il recevoir quelque chose comme cela? Pas surprenant qu'il n'y avait pas de place pour lui à l'auberge. Il n'y a pas encore plus de place pour lui dans les églises. Ils l'ont fait déguerpir. Ils ne croient pas en lui. Ils disent, dors avec une telle chose. C'est du fanatisme. Nous ne voulons rien avoir à faire avec cela. C'est contre les doctrines de nos pères, les doctrines de cette église. C'est contre les doctrines de nos credos, de nos ancêtres. Donc, Christ est autant rejeté aujourd'hui qu'il ne l'était dans le passé. Il n'y a pas de place ce soir dans nos bonnes églises, nos grandes églises, nos belles églises. Il n'y a pas de place dans nos cercles religieux aujourd'hui pour une réunion du Saint-Esprit. Ils ne le veulent pas. Cela les déconsidère aux yeux des classes de leur contrée. Cela les déconsidère à penser qu'ils devraient s'humilier pour descendre à l'autel, pour pleurer et pour attendre jusqu'à ce qu'ils soient remplis avec la puissance du Très-Haut. Et se relever de là avec une nouveauté de vie. De laisser les femmes se faire allonger les cheveux, agir comme les femmes devraient agir, pour que les hommes jettent leurs cigarettes, cessent de boire, traitent bien leur famille, c'est trop pour eux. Alors ils s'agrippent au credo de leurs églises, au lieu de recevoir le don de Dieu, le cadeau de Noël de Dieu. Ils préféreraient avoir un credo que le don. Ils préfèrent avoir le papier que le don. Ils veulent du papier. Sur quelque chose qui est tout brillant et beaucoup de cérémonies qu'ils font avec cela. Mais le vrai don qu'il y a à l'intérieur, ils ne le veulent pas. Voyez-vous? Il est alors enveloppé dans une étoffe sale, un linge. Il est enveloppé aujourd'hui dans la même chose qu'ils appellent des folivoleuses fanatismes, un groupe d'hérétiques. Il est enveloppé dans un linge et le monde ne veut pas. Oh, je suis si heureux de soulever ce linge et de regarder ce qu'il y a dessous. La vie éternelle. Dieu fait chair et habita parmi nous. Ils ne le voulaient pas. Cela interférait avec leur cercle religieux. De le recevoir aujourd'hui, cela interfère avec eux. Oh, si quelqu'un se lèverait dans l'église, commencerait à crier, à louer Dieu, ou si quelqu'un disait Amen, comme ce groupe de ministres ici, ou quelqu'un, comme dans l'auditoire, rapidement, l'huissier les conduirait à la porte, et si vous aviez votre nom sur leur livre, ils seraient rapidement enlevés, voyez-vous. Dieu n'a aucune chance. Si le président élu Kennedy visitait cette ville-ci, les drapeaux jailliraient, le brillant jaillirait, les tapis se dérouleraient, il y aurait une telle bienvenue que vous n'en auriez jamais vu une semblable. Ça fait très bien si vous voulez faire cela. Il est le président élu des États-Unis. Mais s'il venait, il ferait tout cela, il lui donnerait la meilleure des bienvenues. Et vous penseriez qu'il s'est humilié pour venir à une si petite ville que Jeffersonville, Indiana. Quand New York et toutes les grandes villes le demandent partout, juste pour un moment, afin de parler avec lui, s'il venait à Jeffersonville, à une pauvre ville comme la nôtre, oh, comme il se parerait, comme on dit, il se parerait comme les chiens, il ferait tout, il revêtirait les rues, il ferait tout pour qu'il soit le bienvenu. C'est très bien si vous êtes un politicien, c'est très bien. Mais Jésus peut venir dans la forme de la résurrection de sa puissance. Il peut venir dans le Saint-Esprit. Il peut montrer des signes et des prodiges. Et chaque journal le critiquerait. Les gens appelleraient cela des saints comédiens. Ils diraient, ces gens sont fous. Pas surprenant que nous ayons une bombe atomique juste avec notre nom écrit dessus. De la miséricorde méprisée, il ne reste plus que le jugement. Oh, ils ne le recevront pas. Ils ne l'ont pas fait alors et ils ne le feront pas maintenant. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Je veux juste le demander. Pourquoi n'ont-ils pas accepté, n'ont pas su accepter le cadeau de Noël de Dieu? Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Si c'est juste un don qu'ils auraient pu regarder seulement, oh, cela irait bien avec leur société, cela aurait été très bien. Mais si cette religion du Saint-Esprit s'adaptait avec la société des gens d'aujourd'hui, ils le prendraient. Mais pourquoi ne le prennent-ils pas alors? Parce qu'ils estiment plus leur société qu'ils n'estiment Christ. C'est vrai. Vous dites, vous parlez assez durement de lui. Je prends position pour lui. Il est mon Seigneur. Je suis son serviteur. J'ai le droit de m'écrier contre cette chose mauvaise. C'est vrai. Et les chrétiens croient cela, ils savent cela, ils acceptent cela, et ils savent que c'est la vérité. Quelle était la raison pour laquelle ils n'ont pas accepté ce paquet enveloppé? Ils savaient ce qu'il y avait à l'intérieur de cela, et ils ne le voulaient pas. C'est la raison pour laquelle les églises et les gens aujourd'hui, les gouvernements et les régions ne veulent pas recevoir le cadeau de Noël de Dieu. C'est parce qu'ils savent ce qu'il y a à l'intérieur. Ils ne le veulent pas. Cela fera en sorte que les femmes agiront différemment. Cela fera en sorte que les hommes agiront différemment. Vous devrez endurer le nom de fanatique. Vous devrez prendre le chemin avec les quelques méprisés du Seigneur. Vous devrez nettoyer votre vie. Vous devrez cesser votre méchanceté. Vous devrez arrêter de faire le mal, tricher, voler, mentir, commettre l'adultère. Vous devrez cesser de faire ces choses. Et les gens ne le veulent pas. Bien qu'ils savent que c'est bien, mais ils ne le veulent pas. Cela leur apporte trop de vérité. Cela découvre leur péché. Donc ils n'en veulent pas. Ils ne veulent rien avoir à faire avec cela. Tenez-vous loin de cela. C'était comme cela dans ces jours-là. Ils savaient ce qui était enveloppé à l'intérieur de cela. Alors ils ont dit, dors avec cela. Ils ne le veulent pas. C'est la même chose aujourd'hui. Ils ne l'ont jamais voulu. Et ils ne veulent pas le Saint-Esprit aujourd'hui. C'est parce qu'ils savent ce qui est enveloppé à l'intérieur. Ils peuvent surveiller une personne qui reçoit le Saint-Esprit. Ils se tiennent là. Ils voient que cette femme peut être aussi basse qu'elle puisse être, au point même que les chiens ne la regardent qu'à peine. Ils voient cette femme se relever de cet autel, une nouvelle personne. Et de voir une femme nettoyer sa vie, sortir, agir comme une dame, d'en voir une qui court à des parties de bridge, de fumer 4 ou 5 paquets de cigarettes par jour, se tenir dans les bars, une voltigeuse régulière de bas, ils savent que s'ils acceptent ce don de Dieu qui est enveloppé dans le paquet appelé Jésus-Christ, cela gâcherait tout leur plaisir mondain, car ils ne supporteraient pas cela. Cela fait quelque chose pour eux. Cela change les gens. Les gens ne veulent pas être changés. Ils préfèrent « Laissez-moi tranquille ». Ça me rappelle cet homme possédé du démon quand Jésus est allé à Gadara. Il y avait là un homme qui avait 2000 démons en lui. Et ils ont dit, « Eh bien, qu'avons-nous à faire avec toi? Pourquoi viens-tu ici? Quitte nos terres, nous ne voulons pas t'avoir ici. » Ils voulaient être laissés tranquilles. Les gens se sentaient mieux à la maison avec les démons que de rester avec Jésus. Alors ils ont dit, « Sors de notre région, nous ne voulons pas t'avoir ici. » Pauvre vieux Légion, il était le seul qui voulait de l'aide. Il vient toujours vers ceux qui le veulent. Il vient vers ceux qui ont besoin de lui. Alors il fut le seul qui fut aidé. J'ai souvent pensé, quand j'arriverai au ciel, je vais voir combien de poids son témoignage a dû donner sur les éleveurs de pourceaux de Gadara. Si ça devait leur coûter un troupeau de pourceaux, ils ne voulaient pas de réveil. Si ça devait coûter quelque chose aux gens, ils ne veulent rien à faire avec cela. C'est de la manière que c'est aujourd'hui. Si ça doit vous coûter vos parties de bongo, vos bons temps, vos cigares, vos farces sales, toute la saleté et les choses du monde, la raison pour laquelle ils ne le veulent pas, c'est que cela leur coûtera quelque chose. Ou votre grand nom de société avec beaucoup de brillants par-dessus. Mais cela vous donnera un nom qui est écrit sur le livre de vie de l'agneau qui ne passera pas. Alors, faites votre choix. Vous avez un libre arbitre. Oh, recevez le cadeau de Noël de Dieu. C'est ma prière pour vous. Oui, ils ne le veulent pas, parce que ça leur fait quelque chose. Ou le gouvernement le voulait-il? Le gouvernement ne le voulait pas. Et Hérode ne le voulait pas. Non, monsieur. Pourquoi? Parce qu'il devrait changer son programme. Et le gouvernement ne le veut pas aujourd'hui. Nous sommes supposés être une nation chrétienne. Mais pourquoi les Nations Unies ne le veulent pas? Ils prendront toute autre idée dans le monde, en dehors de la sienne, mais n'offriront jamais de prière. Il n'y a pas de prière à leur session. Ils vont simplement là, et le chien mange le chien, comme dit la vieille expression de la rue. Ils ne veulent pas Christ. Ils auraient à changer leur programme, alors ils ne le veulent pas. Ils ne le voulaient pas alors, ils ne le veulent pas aujourd'hui. Les églises ne le voulaient pas, parce qu'ils étaient en désaccord avec leur credo. Il leur a dit qu'ils étaient une génération de vipères, des sépulcres blanchis. Il les appela de toutes sortes de choses qui pouvaient être enseignées. Il a dit au vieux Hérode, « Allez dire à ce renard, oh, qu'est-ce qui est plus sale qu'un renard? Qu'est-ce qui est pire et qui est si bas et si sale qu'un vieux renard ?» Jésus a dit, « C'est ce qu'il est. » Alors, il a appelé noir, noir, et blanc, blanc. Il a appelé le mal, mal, et le bien, bien. Alors ils ne voulaient pas de cela. Les églises aujourd'hui ne veulent pas un pasteur rempli du Saint-Esprit qui va faire bouillir cela en dehors et dire ce qui est bien et ce qui est mal. Ils ne veulent pas de cela. Ils le congédieraient rapidement. Le conseil des diacres se réunirait ensemble et ils le renverraient, en prendraient un autre qui leur parlerait de leur credo. Frères, je ne connais pas d'autre credo que Christ. Pas de loi, si ce n'est l'amour, et pas de livre, sauf la Bible. C'est ce dont nous avons besoin, c'est ce dont les églises ont besoin. Mais les gens ne le veulent pas. Alors ils ont l'église si enveloppée dans ces dénominations qu'ils peuvent prendre un conseil d'administrateur ou un conseil de diacre et de tourner un bon pasteur de n'importe quelle manière qu'ils le veulent. Mais ils ne peuvent pas tourner Dieu. C'est une chose certaine. Dieu demeurera Dieu. Ils ne l'accueilleront pas. Ils accueilleront leurs amis, leurs politiciens et ainsi de suite, mais ils n'accueilleront pas Christ. Ils préféreraient avoir le Père Noël en tout temps. Le monde est épris. Le Père Noël a pris le contrôle. Oh, vous savez, les petits-enfants ne savent même plus ce que Noël veut dire. Ils ne savent pas ce que Pâques veut dire. C'est un lapin de Pâques, une sorte de lapin ou des petits poulets de couleur jaune ou quelque chose comme cela. Qu'est-ce que Dieu, la résurrection, a à faire avec un poulet, le plus sale animal qui existe? Qu'est-ce qu'il y a de plus sale qu'un poulet? Et ils placent cela là-dedans, et ils lui font prendre la place de Christ. Qu'est-ce qui est plus un mythe que le Père Noël? Cela n'a jamais existé. Dire des mensonges aux enfants, vous serez responsable pour cela au jour du jugement. Oui, Pas surprenant que les gens ne savent pas quoi faire. Ils ne veulent simplement pas la chose réelle. Ils vont prendre n'importe quoi d'artificiel, mais ils ne veulent pas la chose réelle. Ils ne veulent pas les dons de Dieu. Oh my, certainement, ils ne veulent pas Jésus. C'est la seule chose. J'ai écrit ici une raison pour laquelle ils ne le voulaient pas. C'est parce que lorsqu'il est allé à leur temple et qu'il a trouvé leur souillure dans le temple, il a bousculé les tables, il a chassé les changeurs de monnaie et il l'a nettoyé. Et s'il laissait entrer le Saint-Esprit dans l'une de ces grandes églises autour d'ici, il la nettoierait. Alors ils ne peuvent pas l'accepter, vous voyez. Cela les ferait cesser de jouer à l'argent. Cela les ferait cesser leur partie de rock'n'roll. Plaçant leurs photos dans le journal, comme les pique-niques, comme un prédicateur méthodiste a fait là-bas, au Oak Park, Clarksville. Il y a un frère assis ici maintenant. S'il ne lui peignait pas les cheveux qui descendaient là pour lui, n'importe quel homme serviteur de Dieu qui place son portrait dans le journal avec une partie pique-nique d'une chose dans l'église. Mais si John Wesley savait cela, il se retournerait dans sa tombe. Pourquoi? Ils ont rejeté le Christ que John Wesley a connu, c'est vrai. Et ils ont accepté un pique-nique. Ils ont une religion pique-nique. Ils ont des enfants pique-nique. Un papa pique-nique. Une maman pique-nique. Un président pique-nique. Et simplement, se roulant, alors ils continuent d'aller. Oh, quelle disgrâce! Pourquoi ils refusent le réel? Dieu a dit qu'il les livrerait à de fortes séductions, qu'ils croiraient aux mensonges et qu'ils seraient damnés pour cela. Dieu a dit qu'il le ferait. Vous refusez le bien, vous devez prendre le mal. Il n'y a aucune autre manière. Vous refusez d'aller à droite, vous devez aller à gauche. Aller d'une manière autre que la droite. Alors vous ne pouvez pas aller bien et mal en même temps. Quand ils refusent le Saint-Esprit, ils refusent Christ, ils refusent le programme de Dieu, ils refusent le messager, ils refusent tout. Alors par conséquent, ils demeurent dans leur péché. Il ne reste plus rien alors que le jugement. Frère Ben, c'est vrai. Juste, c'est exactement vrai. Ils l'ont fait. Ils ont refusé Christ, ils ont refusé son programme, ils ont refusé son esprit. Il a essayé pendant 50 ans. Depuis que le Saint-Esprit est tombé en Amérique, ils l'ont refusé pendant 50 ans. Et ce soir, c'est plus noir et plus sombre que ça ne l'a jamais été. Et même sur ceux sur lesquels il était tombé au commencement, leurs enfants ont organisé, ils ont fait des dénominations, ils ont abouti à cela dans les organisations, jusqu'à ce qu'ils refusent le Dieu même que leurs pères ont reçu. Ils prétendent être pentecôtistes. Oh non! Cela ne fait pas d'une truie un cheval si elle vit dans une grange. Non, en effet, pas plus que ça ne fait de faire un chrétien d'un homme appartenant à une église pentecôtiste, baptiste, presbytérienne ou rien d'autre. Il est encore un pécheur jusqu'à ce qu'il soit converti. Et quand il est converti, il est né de nouveau de l'Esprit de Dieu et changé. Et il a accepté Christ et le Saint-Esprit est entré et a fait de lui une nouvelle créature, une nouvelle créature. Ensuite, ils le refusèrent alors, et ils le refusent maintenant. Oh, ils renverseraient leur table d'argent, ils renverseraient leur conseil d'administration et leur conseil de pasteur. Ils ne voulaient pas. Ils obtiendraient un conseil sûrement. Oh, quelle différence cela ferait s'ils venaient dans leurs églises aujourd'hui. Mais il ne peut pas y entrer. Nous l'avons découvert l'autre soir, dans cet âge de l'église, il a été mis dehors par sa propre église. Se tenant à la porte, frappant, essayant d'entrer à nouveau. Un Père miséricordieux, après avoir été jeté dehors par son propre peuple, essayant d'entrer à nouveau dans son église. Il a dit, je suis celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or et au dernier âge de l'église. Ici, il était dehors. Ils l'ont mis dehors. Où donc? Dans cet âge de la Odyssée. Se tenant là, à nouveau, essayant d'y entrer à nouveau. À sa propre porte, à sa propre église. Quelle chose pathétique. C'est une des images les plus pitoyables que la Bible peint. C'est dans le deuxième chapitre de l'Apocalypse, le troisième plutôt. Regardez, c'est le Christ. Comment c'est le Christ? Dehors. Il y a une autre chose pathétique. Je pense que l'une des paroles les plus pathétiques que Jésus n'ait jamais dites, c'était lorsqu'il a dit, Père, je me sanctifie moi-même afin qu'il soit sanctifié. En d'autres mots, il avait le droit, il était un homme, il avait le droit à une maison, il avait le droit à une famille. Il était un homme, autant homme que vous l'êtes et que je le suis, et autant humain dans son humanité que nous l'étions. Il en avait le droit, mais il a entraîné 12 hommes qui allaient apporter l'Évangile au monde entier. Alors il s'est sanctifié lui-même à cause d'eux. Je me sanctifie moi-même à cause d'eux. Un don de Dieu, se gardant lui-même sanctifié. Oh, les dons de Dieu, vous les gens qui prétendez que vous avez reçu son esprit, gardez-vous sanctifiés. Éloignez-vous des choses du monde, soyez sanctifiés. Oh, qui savait ce qu'il y avait dans ce paquet cadeau? Y a-t-il quelqu'un qui a su ce qu'il y avait là à l'intérieur? Je suis heureux qu'il y avait quelqu'un. Qui le savait? C'était une chose cachée, une pierre rejetée, mais il y avait quelqu'un qui a su ce qu'il y avait là-dedans. J'en suis si heureux. J'aime sonder les choses, pas vous? J'aime à creuser tous mes pépites et les polir, regarder ce qu'il y a là-dedans, les placer devant le compteur Gégère. Il fut placé devant le compteur Gégère aussi sur le calvaire. Il était 100% certainement, il fut le meilleur or qu'il n'ait jamais trouvé. Le diamant le plus précieux qui n'ait jamais glissé. Jamais. La Bible a dit que le royaume des cieux est comme un homme qui achète des diamants. Et lorsqu'il trouve ce grand-là, il vend tous les autres seulement pour l'obtenir, pour l'acheter. Il est le plus grand diamant à carat qui n'ait jamais été sorti de la poussière de la terre. Le plus grand or qui n'ait jamais sorti de la boue. Il est un bijou, le bijou du ciel, un gros diamant. Et quand un grand diamant est trouvé en Afrique du Sud, je suis allé là au travers des grandes mines de diamants du Kimberley. Ils prennent ces diamants et après, lorsqu'ils ont sorti de la poussière, puis ensuite ils les taillent. Et la raison pour laquelle ils les taillent, les coupent, c'est pour refléter la lumière. Placer les lumières là, hors de cela, le carat dans cela, cela montre quel carat il y a dans ce diamant. S'il n'a pas beaucoup de feu et d'étincelles, ce n'est pas un diamant qui vaut grand-chose. Mais quand il a, oh, c'est comme de la vitre, lorsque c'est un vrai diamant à carat, il reflétera, il montrera différentes couleurs. C'est ce qu'il était. Il était un diamant, et il fut blessé pour nos transgressions. Il fut meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix était sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Oh, ces rayons de l'amour de Dieu, et la lumière reflète sur lui sa puissance de guérison, l'amour et la résurrection. Oh Dieu! Il l'avait blessé, il l'avait tranché. Ils l'ont coupé par une épée romaine et un fouet romain jusqu'à ce que ses côtés furent fendus. Et le sang qui coulait de son dos et était là, par-dessus sa tête, descendait au travers de sa barbe, de ses pieds. Mais que faisait-il? Il reflétait l'amour. Il a embrassé la croix. Au lieu d'un oreiller mou et emplumé, une crèche de paille. Au lieu d'une petite jaquette rose pour se vêtir, un violent. Oh frère, pouvez-vous voir ce qu'est la profondeur de l'amour? Je parlais à des gens dans mon foyer l'autre soir. Personne ne pourra jamais toucher combien est profond l'amour de Dieu. Cela, oh l'amour de Dieu, comme cela est riche, comme cela est pur. Ce dernier verset, je crois, que c'est cela, il fut trouvé sur les murs d'une institution d'aliénés. Si nous remplissons d'encre l'océan et les cieux seraient faits de parchemin, chaque tige sur la terre une plume d'oie et chaque homme un script de métier, d'écrire l'amour de Dieu là-haut viderait l'océan, à sec où le rouleau pourrait-il contenir le tout bien étiré de ciel en ciel. Prendre ces tiges qui ont été sur la terre, en faire des plumes d'oie et les milliards d'hommes script de métier, d'écrire 5 petites lettres, je veux dire 4 petites lettres, amour. L'amour de Dieu, cela viderait les océans à sec. Et quand les 4/5 de la terre sont de l'eau, je me tenais là-bas au mont Palomar et je regardais à travers la vitre. Vous pouviez voir 120 millions d'années espace-lumière. Et le rouleau pouvait-il contenir le tout, bien qu'étiré de ciel en ciel? L'amour de Dieu, Dieu s'est dévoilé lui-même. Il est venu, un paquet de Noël fut déposé sur la paille. Et la première chose qu'il eut, sur laquelle il devait appuyer sa petite tête, c'était de la paille. Un morceau sale de l'ange enveloppé autour de lui. La dernière chose qu'il a eue, c'était une couronne d'épines. avec un linge sale enveloppé autour de ses yeux. Et on le frappait sur la tête, disant, si tu es un prophète, dis-nous qui t'a frappé. Et ensuite, cloué à la croix, l'amour se tend. Avec ses propres enfants criant pour son sang, il cria, Père, pardonne-leur, car ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Ça, c'est l'amour. L'Église ne veut pas de cela. Ils veulent des credos. Nous avons besoin d'amour. L'Église se meurt par les credos. Ils pensent vivre seulement par l'amour, parce que l'amour, c'est la vie éternelle. L'amour vainc toute chose. L'amour est la force la plus puissante qui existe. Non, ils ne le voulaient pas, parce qu'ils savaient ce qu'il y avait dans ce don. Mais à quelques-uns, il leur fut révélé ce que ce don était, ce qu'il y avait en cela. Quelques-uns ont regardé à l'intérieur de cela. Je crois, les premiers qui ont regardé dans ce paquet de Noël, savez-vous qui c'était? Je crois que c'était des anges. Les anges le savaient. Ça leur fut révélé. Ils le savaient parce qu'ils sont sortis sur le côté de la colline. Peut-être la petite Marie, assise là, fatiguée, poussiéreuse, un pauvre vieux garçon berger est venu, puant comme les moutons. Il a vu cette petite mère assise là, dans cette soirée. Il y avait une lumière qui luisait là, quelque chose. Et tout comme les gens aujourd'hui peuvent voir que quelque chose est sur le point d'arriver, des temps effrayants, les gens ne savent pas par quel chemin s'en aller ou tourner. Peut-être qu'un vieux garçon berger est venu, il a vu cette petite mère, quelque chose l'a frappé. Il a dit, j'ai de l'eau froide ici dans cette gourde, voudriez-vous juste un verre? Et la petite famille l'a remercié, et la future petite mère prenant le verre d'eau. Et peut-être que c'était un des petits bergers qui était étendu là sur cette colline ce soir-là, quand là en bas dans l'écurie où un petit bébé était en train de pleurer. Oh, et le monde, il n'avait pas de place pour lui, personne ne le voulait. Mais dans ce même temps, un berger là-bas, sur la colline, les anges sont descendus et ils ont commencé à chanter le premier Noël. Aujourd'hui, dans la cité de David, est né pour vous Christ, le Sauveur. Cela fut révélé. C'est de la seule manière que n'importe qui dans le monde pourra savoir ce qu'il y a dans ce paquet. Cela doit vous être révélé. Vous le rejetterez, vous direz, c'est un fanatisme. Mais quand vous recevrez la révélation, vous chercherez tout cela. Vous vous ouvrirez, et Dieu entrera, et soupera avec vous, et vous avec lui. Quand vous êtes prêt à ouvrir la porte, et que vous le laissez entrer, ce petit paquet frappant à votre cœur, le plus grand cadeau de Noël qui ait jamais été donné, le premier et le plus grand, ce petit paquet frappant au cœur d'un homme, j'entrerai, et je souperai. Vous ne le saurez jamais, jusqu'à ce que cela vous soit révélé. Et quand cela vous est révélé, alors vous irez à la chasse pour cela. Quand vous voyez que c'est la vie et la seule manière de vie, quand vous voyez que votre église est sèche et morte, quand vous voyez que votre poignée de main avec un pasteur ou que vous vous aspergez avec une salière et que ça n'a rien à voir avec cela, alors vous commencerez à investiguer. Quand vous êtes couché sur un lit mourant et que le docteur dit, il ne reste plus rien. Vous serez mort dans quelques minutes. Vous allez vouloir regarder dans ce paquet alors. Regardez à l'intérieur de cela ce soir. Bien sûr, il se détournera de vous alors. La Bible dit, si vous me rejetez dans vos jours de santé, comme vous l'êtes maintenant, quand la calamité viendra, je vais seulement me rire de vous. Alors vous feriez mieux d'investiguer pour le paquet ce soir. Qu'est-ce qu'il en est de tout ceci? Des lumières sacrées venant du ciel, des photos prises de grands signes, des discernements, des puissances, parlant en langue, l'interprétation, disant des choses qui vont venir, la puissance de l'évangile, guérissant les malades, prenant les cancers et les guérissant, des yeux aveugles ouverts, toutes ces sortes de choses. Qu'en est-il de tout ceci? Oh, eh bien, c'est juste un groupe de saints comédiens. Soyez prudents. C'est un ange, cela peut l'être. Ainsi a fait Balaam. Comment a-t-il pensé que Dieu ne maudirait pas un peuple comme Israël? Mais il a manqué de le voir. Il regarda le l'ange au lieu de voir le rocher frappé et le serpent d'airain qui allait devant eux pour faire une expiation. Ainsi n'est-il aujourd'hui. Au lieu de voir la puissance du Saint-Esprit faisant ses signes du Messie et les prodiges parmi le peuple, comme il a promis de le faire dans les derniers jours, comme il a dit, comme il en était au jour de Lot, ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme, quand il commence à faire ses signes et ses prodiges parmi les gens, se montrant vivant lui-même? Qu'est-ce? Parmi les pauvres et les humbles, les gens pauvres, ils partent. Ils appellent cela fanatisme. Jetez-le dehors.
Vous feriez mieux de vous enquérir avant que cela n'aille trop loin de vous.
Oui, ces bergers puants, les gens ne voulaient à peine les avoir alentour. Ils s'étendaient là, ils dormaient avec ses moutons et sur les mêmes paillasses qu'eux et sur le même sol plutôt. Ils s'occupaient d'eux jusqu'à ce que vous pouviez les sentir, tout comme les moutons qui venaient. N'importe qui sait qu'un berger qui rassemble les moutons se couche directement là dans la porte avec les moutons. Il se couche là parmi eux. Et Jésus a dit, je suis la porte de la bergerie. Je me suis souvent demandé comment cela était, jusqu'à ce que je sois dans la Sainte, en Terre Sainte ou en Orient plutôt. Et j'ai constaté comment le berger place les moutons à l'intérieur et ensuite il se couche dans la porte. Les moutons ne peuvent sortir sans passer par-dessus lui. Le loup ne peut traverser sans passer par-dessus lui. Il est la porte. Je suis si heureux que Jésus s'est étendu dans la porte de votre cœur. Nous ne pouvons pas sortir ou faire quoi que ce soit sans qu'il le sache. Ou rien ne peut entrer sans qu'il le sache. Alors, il fera concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. Cela devrait nous faire pleurer et crier et louer Dieu et dire « Sois remercié Dieu pour un sauveur, un berger qui s'étendra à la porte de notre cœur et nous avertira quand quelque chose survient d'être prêt pour cela. » Oui, loin là, à travers le pays, il y avait des humbles hommes sages, ils se nommaient des mâles, des astronomes. Quand j'étais dans l'Est, il n'y a pas longtemps, ils se placent encore de la même manière. Ils sont un type de gens très pauvres. Ils vont par croix. Ils s'assoient directement là dans la rue, Billy et moi là-bas aux Indes, et derrière là-bas, c'est de là qu'ils viennent, donc, depuis les Indes. Maintenant ils disent, nous avons vu son étoile dans l'Est. Ils étaient dans l'Est quand ils ont vu l'étoile. Jérusalem est à l'ouest, alors la Palestine était à l'ouest de l'Inde. Alors ils ont vu son étoile pendant qu'ils étaient dans l'Est, et ils sont venus pour l'adorer. Maintenant ces mages, ils ne s'assoient jamais à plat, ils ne font que s'accroupir. Ils s'assoient là au travers de toute la journée. Le soir, ils ont une grande tour, ils montent là-haut, ils restent à cette tour. Et ils brûlent des feux, ils parlent des pays, de la chute des royaumes, et là, etc., la diminution des empires. Et ils adorent un seul vrai Dieu, c'est vrai. Ils sont des croyants, ils sont des mahométans. Vraiment, cela jaillit des Médopères, tout là, tout au loin dans les jours de Daniel. Et ils sont ceux, et Pierre a dit dans Actes 10, 35, qui reconnaissait que Dieu ne fait point d'exception de personne ou de nation, mais il tous dans chaque nation qui veulent le craindre. Et n'importe quel homme qui craindra Dieu, regardez ces mages là-bas. Voyons le don, l'étoile de Dieu, ils l'ont reconnu. Et avant les prêtres dans le temple de Jérusalem, parmi les gens religieux, les prédicateurs et tous les autres, amen, les mages, je peux les voir assis autour de ce feu sacré un soir. Est-ce que nous avons encore juste un peu de temps? Oui. Assis autour de ce feu sacré, parlant, ensuite ils montaient, où ils étudiaient les corps célestes. Ils étaient bien familiers avec tous. Chaque mouvement, ils connaissaient à propos. Alors un soir, pendant qu'ils étaient assis là, peut-être chantant des hymnes, ils montaient là sur cette grande chose, ils étudiaient, ils connaissaient chaque étoile où elle demeurait, ils la connaissaient par son nom, parce qu'ils étudiaient les corps célestes. Pas surprenant qu'un étranger parmi ce corps céleste les a agités. Eh bien, ils se sont demandé, quel est ce nouveau compagnon ici? Oh, mal. Il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé. C'est surnaturel. Et à quoi ça les appela-t-il? Cela les appela à revenir à l'écriture. Maintenant, ils connaissaient les écritures, car Daniel était leur chef. Vous savez cela? Le second chapitre de Daniel nous dit cela. Il fut nommé chef sur eux. Alors il les enseigna. Sans aucun doute, un soir, ils étaient assis là, lisant les écritures. À propos. Et Daniel a dit, comme ils contemplaient tous ces royaumes, jusqu'à ce que finalement, ils deviennent ce qu'ils étaient, chacun d'eux, les Médopères, et en descendant jusqu'à ce que cela arrive en Rome, et ensuite finalement, il vit une pierre taillée d'une montagne sans main. Et ils ont dit, ce doit être environ ce temps-là. Ensuite, ils se souvint de la relation loin en arrière, d'avant ce temps-là, tout au loin dans les jours du séjour d'Israël, quand ils vinrent et entendirent Balaam dire, quand il vit Israël, il dit, il y aura une étoile qui sortira de Jacob. Amen. Cela a dû être environ dans ce temps-là, quand ils pensaient à propos de ces choses, que le nouveau visiteur est apparu. D'habitude, c'est quand vous gardez vos pensées sur Christ qu'il vient à vous. C'est raisonnablement, habituellement, en des temps où vous pensez à lui quand il apparaît. Vous savez, quand vous songez à vous mettre en ordre et faire quelque chose de bien, c'est alors qu'il vient à vous pour vous aider.
Et cela a dû être environ ce temps. Et ils ont dû regarder en haut, ils ont vu ce nouveau visiteur. Cela a commencé à les guider vers l'ouest. Rapidement, ils ont commencé à aller vers l'ouest, les guidant au travers de la rivière du Tigre, au travers du désert, par-dessus les montagnes, en bas et au travers des neiges à moitié fondues. Oh, en avant et en avant, ils savaient que quelque chose se produisait. Il y avait une chose surnaturelle qui s'était produite. Et où en sont-ils arrivés? Ils ont dit, sûrement, si ceci est la prophétie de Daniel, la grande cité de Jérusalem, la capitale des gens religieux de cette nation, sera toute prête à recevoir leur roi. Ils sauront de quoi il s'agit quand nous arriverons là. Nous ne comprenons pas nous-mêmes, car nous ne sommes que des mages, des pauvres, humbles gens. Mais nous cherchions quelque chose, et nous voyons quelque chose surgir parmi nous qui est un peu surnaturel. Oh my, ils étaient prêts! Alléluia! Ils sont sortis, des hommes humbles, pour trouver le messager étoile de Dieu. Ils étaient là pour suivre le messager étoile de Dieu, jusqu'à ce qu'ils arrivent à cette lumière parfaite. Oh, Apocalypse 20 ou Apocalypse 1, 20 dit que les étoiles de ces églises, ce que nous devrions faire aujourd'hui, c'est de trouver cette étoile, lumière, amen, qui reflète sa gloire, qui reflète sa puissance, qui reflète sa divinité, et suivre cela jusqu'à ce que nous trouvions cette lumière parfaite. Gardez vers l'ouest, conduisant, poursuivant toujours, guide-nous à cette lumière parfaite. Oh, continuez seulement d'avancer, peu importe ce qu'est le prix, par-dessus les montagnes, en travers des jungles, partout ailleurs. Et finalement, ils sont arrivés à Jérusalem. Et aussitôt qu'ils arrivèrent à cette grande église dénominationnelle, l'étoile les quitta. Étrange. Ils ont pensé, ça doit être ici. Alors ils allèrent dans les rues des villes de haut en bas, disant, criant dans chaque allée, en bas, à travers les rues, où est-il, lui qui est né, le roi des Juifs? Nous avons vu son étoile dans l'est, et nous sommes venus pour l'adorer. Où est-il? Étrange. Ils n'avaient pas la réponse directement dans leur propre cercle. Oh, my, je peux quasiment parler en langue maintenant. Ils n'avaient pas la réponse. Ils n'avaient pas la réponse alors. Ils ne l'ont pas aujourd'hui. Ils ne savent pas. Les hommes sages n'ont pas trouvé Jésus dans le cercle de leur religion. Ils le trouvèrent en dehors du cercle de leur religion. Et les hommes sages aujourd'hui, les sages du cœur, ne le trouvent pas dans ces grandes dénominations. Ils ne savent rien à propos de cela. Ils n'ont pas la réponse. Qu'est-ce que toute cette guérison divine qui se passe en ce jour? Qu'est tout ceci à propos de langue et interprétation et prophétie et le signe du Messie? Oh, non-sens, il n'y a rien en cela, ne faites pas, il n'y a rien en cela, voyez-vous? Ils n'ont pas la réponse. Ils ne l'avaient pas alors, ils ne l'ont pas maintenant. Mais cela a fait une chose. Cela a commencé à les faire chercher. Je pense que notre frère Duplessis est en sorte épris sur cela maintenant. Ils sont retournés, les vierges folles, retournés pour acheter de l'huile. Mais c'est alors qu'il est venu, quand il partira après ça. Alors, comme nous sommes proches maintenant, quand nous voyons ces grandes églises se retourner disant, eh bien, peut-être avons-nous oublié quelque chose, nous ferions mieux de le trouver. Ils ne l'obtiendront jamais, rappelez-vous bien de cela, ils ne l'obtiendront jamais, ils sont morts, et ils sont morts et morts, et c'est tout. Ils ne viendront jamais à la vie. Rappelez-vous seulement, je parle au nom du Seigneur. Et ceci est souvent, c'est cela. Ils ne viendront jamais, jamais à la vie. Ils sont finis alors. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas intéressé à leur programme. Je suis intéressé à une chose, de faire exploser aussi dur que je peux à quiconque voudra. Pas ressusciter une dénomination, mais ramener à Jésus-Christ. Oui, c'est cela. Jamais dans une dénomination, c'est contre Dieu. Cela l'a toujours été et cela le sera toujours. Cela met Dieu en dehors. Cela rejette tout ce qu'il y a qui est saint. Cela ne viendra jamais à la vie. Alors ce n'est pas plus différent ce Noël que ce l'était ce premier Noël. C'est la même chose. Ces mages montant, descendant la ville. Où est-il? Où est-il? Oh, laissez-moi seulement arrêter ici pour une minute. J'ai un film. Je ne l'ai pas ici maintenant. Mais un certain docteur là, docteur Villet, une femme médecin qui fut guérie dans mes réunions. Elle a la bande maintenant. Elle s'est appelée 3 minutes. Avant minuit. Et quand nous avons ces Juifs venant dans leur nation là-bas maintenant, dès maintenant en Palestine, comme cela fut annoncé par le Seigneur qu'il le ferait, avant sa seconde venue, il le ferait. Et un frère ici, l'autre jour, allant en Israël, m'a posé la question. Puis-je aller là-bas? Et ils l'ont refusé. Israël viendra comme une nation, pas comme un individu. Une nation naîtra. Cela viendra en tant que nation. Mais regardez, ces pauvres juifs là-bas en Iran et ces différents endroits, vous l'avez lu dans le Life magazine, ils ne voulaient pas embarquer sur ces avions. Ils n'avaient jamais vu cela. Ils labouraient avec de vieilles charrues en bois et toutes ces choses. Ils ont dit, mais le rabbin est sorti de là. Et il a dit, attendez une minute. Notre prophète ne nous a-t-il pas dit que lorsque nous retournerions dans notre pays natal, nous retournerions sur les ailes d'un aigle? Oh my! Et ils sont venus, et ils ont embarqué dans les avions TWA, et ils ont été soulevés. Le prophète ne savait pas que cela marchait avec des moteurs. Ils avaient seulement l'air de grands aigles. Ils allaient loin dans les airs comme un aigle. Alors le prophète a dit, quand vous reviendrez, et cela fut dit il y a 2500 ans, oh Dieu, 2500 ans, quand ils furent pris captifs par les Romains, éparpillés aux 24 vents du monde, il a dit, je ne les oublierai pas, je les ramènerai à nouveau, mais je vais aveugler leurs yeux, afin que les gentils ne puissent prendre un peuple parmi eux à cause de mon nom, placer mon nom sur eux. Et quand ce jour sera terminé, je les rassemblerai à nouveau. Et quand ils retourneront à leur foyer, ils viendront sur ces espèces de choses. Et Esaïe les a vus s'élever et passer là à travers. Il a dit, sur les ailes des aigles. Ce vieux rabbin se tenait là et il dit, notre prophète a dit que nous irions à la maison au temps de la fin sur les ailes d'un aigle. Alors ils sont montés à bord. Et quand ils sont descendus là-bas, transportant leurs vieux, leurs aveugles, leurs infirmes sur les épaules, les aidant à marcher là, ils ont eu une entrevue avec eux. Et je l'ai sur la bande. Cela disait, êtes-vous revenus à la maison, à la patrie pour mourir dans votre pays natal? Ils ont dit, non, nous sommes venus pour voir le Messie. Oh frère, qu'est-ce qu'il y a? Et leur église n'a pas de réponse. Qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes à la fin des temps, frère. Quand les lumières du soir brillent, la puissance du Saint-Esprit est de retour dans l'église à nouveau. Cela est pareil comme ça l'était au commencement. Le prophète a dit, il y aura de la lumière au temps du soir. L'Église ne sait pas pourquoi ils se rassemblent là. Ils n'ont pas la réponse. La bombe atomique a la réponse pour eux là-bas, par exemple. C'était sûr. Mais nous sommes dans le temps du soir, les heures les plus tardives que nous pensons, certainement. Et ces masses, de haut en bas dans la rue, ils n'avaient pas la réponse. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arriva? Finalement, nous découvrons qu'ils ont commencé à suivre ceci. Et quand cela arriva là, en bas, ils ne pouvaient pas le trouver. Ils ne pouvaient pas trouver de réponse dans la ville, dans leurs empires religieux. Non, ils ne le font pas non plus aujourd'hui. Ils, quoi? Jérusalem, ils ne connaissaient rien à propos d'aucun signe. De quelle sorte de signe surnaturel parlez-vous? Oh, nous avons vu son étoile. Quand nous étions dans l'Est, nous l'avons suivie. Mais où est-elle? Je ne la vois pas. Oh, nous ne savons rien à propos de cela. Cela accomplissait exactement les Écritures. Mais ils n'avaient pas la réponse dans leur cercle religieux. Ils ne l'ont pas aujourd'hui. Qu'est-ce que parler en langue? Quel est ce groupe de gens qui s'élèvent, guérissant les malades, faisant toutes sortes de miracles et ces choses, et criant et pleurant et toutes ces sortes de choses? Cela parle comme ce qu'ils faisaient dans la Bible, là en arrière. C'est du non-sens, il n'y a rien dans cela, disent-ils. Ils ne savent rien du surnaturel. Pourquoi? Le voici. Ils ne veulent pas suivre l'étoile de lumière. L'étoile lumière, le compas de Dieu vers la lumière parfaite, la boussole, oh, guidant vers l'ouest, procédant toujours, guide-nous à cette lumière parfaite, ô étoile de Bethléem. Nous avons vu son étoile ici dans l'ouest, mais quelle sorte d'étoile? Son étoile d'église, le Saint-Esprit se mouvant dans l'être humain. Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Amen! C'est ce que c'est, des hommes sages, des femmes sages, humbles de cœur. Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Oh, ils ne connaissaient rien des choses naturelles. Ils ne connaissaient rien à propos de lumière et de toutes ces choses. Ils ne savent rien à propos de cela. Cela les a stimulés sûrement. C'est la même chose aujourd'hui. Ils ne connaissaient rien à propos de cela, bien que les cercles religieux non plus ne sachent rien. Ils ne savent rien non plus aujourd'hui à propos de cela. Remarquez, j'aime ceci. Oh, ceci est ce qui est bien. Aussi longtemps qu'ils étaient dans ces empires dénominationnels, l'étoile ne leur est jamais apparue. Elle est sortie aux portes de Jérusalem. Elle est restée là, en dehors, frère. Elle est restée en dehors, aussi longtemps qu'ils marchaient dans ces empires dénominationnels. Où est-il? Sûrement, vous, les pasteurs, devriez en savoir quelque chose de cela. Qu'est-ce que tout ceci? Vous rabbins, vous prêtres, et vous, vous méthodistes, vous baptistes, vous presbytériens, catholiques, et vous les vieilles églises comme cela? Sûrement, vous avez une réponse pour cela. Où est-il? Oh, mal! Voyez-vous, ils ne savent rien de cela. Et ceux qui étaient dans cela, ils sont restés dans les ténèbres jusqu'à ce qu'ils sortent. Et aussitôt qu'ils sortaient de la ville, là se trouvait l'étoile à nouveau. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, dit le Seigneur. Sortez de Babylone, de la confusion. Sortez de vos credos et de vos choses soi-disant. Je vous recevrai, a dit le Seigneur. Ne touchez pas leurs choses impures, leurs soirées pique-niques dans l'église, le banco et toutes sortes de choses et les danses. Ici, il n'y a pas longtemps, ma mère m'a appelé, elle a dit, Bill, viens ici un peu. Je pense qu'il est assis ici dans l'église quelque part ce soir. Je suis allé et je dis, qu'est-ce qu'il y a? Ils m'ont appelé là-bas. Et là, il y avait une grande église méthodiste ici en Indiana, qui avait une partie de rock and roll là-dedans. Ils avaient interviewé le pasteur. Il a dit, ça fait trop longtemps que l'église méthodiste a oublié le bel art du rock and roll. Possédé du démon, et ils ne savent rien de Dieu. Ils ne connaissent pas plus de Dieu qu'un hottentot n'en connaîtrait à propos d'un cavalier égyptien. Ils, pas plus qu'un lapin, n'en connaît à propos de raquettes à neige. Et quand vous arrivez à l'endroit où la seule chose que vous connaissez, c'est juste la théologie, un credo fait de main d'homme. Quand la puissance du Saint-Esprit entre, vous acceptez le prophète de Dieu. Vous acceptez le don de Dieu du Saint-Esprit. Et vous voyez combien de rock'n'roll vous pouvez avoir dans cette église. Vous revenez à l'évangile que John Wesley a prêché. Et vous voyez combien vous pouvez en avoir là-dedans. Ils se sont éloignés du sentier battu. Retournez à John Smith des Baptistes. Retournez à Martin Luther. Mais qu'est-ce que c'est? Ils ne connaissent rien du surnaturel aujourd'hui. Et c'est vrai. L'église méthodiste ne connaît rien à propos de la guérison divine. Quand Jean était là prêchant la guérison divine, quelques-unes de ces grandes églises d'Angleterre sont montées. Elles ont ri de lui. Elles ont relâché un renard et un groupe de chiens courants. Et il a pointé son doigt dans sa face et il a dit, le soleil ne se placera pas sur ta tête trois fois que tu m'appelleras pour prier pour toi. Et il est mort ce soir-là, appelant John de venir prier pour lui. Mais pourquoi l'église méthodiste ne ramène-t-elle pas cela dedans à nouveau? Pourquoi? Parce qu'elle est morte, c'est vrai. Vous avez peur de regarder dans ce paquet, car il révélera vos péchés. Je vous appelle, vous méthodistes, à regarder à nouveau dans le paquet ce soir. Je vous appelle, vous les baptistes, à regarder à nouveau dans le paquet. Et vous, presbytériens, et tous, vous, pentecôtistes, catholiques, et tous les autres, regardez en arrière au cadeau de Noël de Dieu. Regardez à nouveau au présent. Jetez la boîte et prenez le présent. Oui, monsieur, éloignez-vous du scintillant du Père Noël. Revenez au don de Dieu. Revenez au Saint-Esprit. Oh, je sais qu'il révélera beaucoup de choses, mais c'est ce don que vous avez besoin. Un nettoyage, une bonne lessive. Je sais que c'est très dur, peuple, mais nous devons l'avoir. C'est la parole de Dieu. Oui, monsieur, c'est bon pour vous, c'est vrai. Oh oui, ils savaient qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Quand ils arrivèrent à cette ville, la lumière s'est éteinte. Aussitôt, ils se sont joints à cette dénomination, la lumière s'éteint. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont commencé à crier. Où est-il? Où est-il? Sûrement, je le trouverai ici. Ceci est une vieille dénomination. Elle a été ici depuis bien longtemps. C'est la capitale des dénominations, la cité du Vatican. Eh bien, sûrement, je devrais le trouver ici. Où est-il? Où est-il ce Christ qui a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours? Où est-il celui qui a dit qu'il y aurait de la lumière au temps du soir? Où est-il celui qui a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi? Où est-il? Où est-il? Et la lumière restera tout simplement éteinte. Et quand ils sont sortis de cette chose, qu'ils ont marché en dehors de la ville, là, la lumière est apparue à nouveau. Il y aura de la lumière au temps du soir. Vous retrouverez sûrement le sentier de la gloire. La lumière, aujourd'hui, est dans le chemin d'eau, ensevelie dans le précieux nom de Jésus. Jeunes et vieux, repentez-vous de vos péchés. Le Saint-Esprit va sûrement entrer, car la lumière du soir est venue. C'est un fait que Dieu écrit sans fin. Oui, frère, ou monsieur, repentez-vous de tous vos péchés. Le Saint-Esprit, le don de Dieu, entrera sûrement. Il est à la porte.
disant, laissez-moi entrer, si vous me laissez entrer, je souffrirai avec vous, je vous révélerai ces choses, je vous montrerai le surnaturel, je guérirai vos maladies, je prendrai soin de toutes ces choses pour vous, si vous voulez seulement me laisser entrer. Le paquet cadeau de Dieu, enveloppé aujourd'hui dans la forme du Saint-Esprit, il était enveloppé alors et il fut appelé le Fils de Dieu. Le paquet cadeau de Dieu, il fut juste pris et réenveloppé à nouveau et renvoyé. Amen. Il était enveloppé dans le Fils de Dieu alors, il est enveloppé dans les Fils de Dieu aujourd'hui, appelé l'Église. C'est vrai. Le paquet cadeau de Dieu, enveloppé pour les gens, et ils le refusent aujourd'hui, tout comme ils le refusèrent alors. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, un diseur de bonne aventure, parce qu'il pouvait discerner les pensées, à combien plus le feront-ils à vous? Oui, ils ont appelé le maître de la maison. Oh, découvrons-le. Oui, les mages, ils l'ont reçu. Ils étaient pauvres et humbles, et ils avaient vu une étrange lumière. Une autre chose que je veux faire pénétrer ici. Quand ils ont vu cette lumière, ils étaient si contents. La Bible dit, ils se sont réjouis avec une grande joie abondante. Oh, j'imagine qu'ils ont crié un peu. Ne l'imaginez-vous pas ainsi? J'imagine bien ainsi. Et quand ils ont vu qu'ils avaient été si longtemps dans cette vieille organisation là-bas, essayant de trouver quelque chose, et il n'y avait rien là-dedans, quand ils sont sortis de la porte, ils ont vu cette lumière du Saint-Esprit brillant à nouveau là-haut, cette étoile de gloire qui tirait devant eux. Et ils sont devenus si contents, ils avaient une joie extrêmement grande. Oh, qu'est-ce qu'une personne fait quand elle déborde tant de joie? Que faites-vous à la partie de Bâle quand vous débordez de joie? Oh, vous hurlez! Hourra! Hourra! Dimitiban, il frappe un court-circuit! Ha ha! Oh, 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 oh! Voyez-vous? Et quand vous recevez l'extrême grande joie, vous hurlez! Gloire! Alléluia! Gloire au Seigneur! C'est vrai! L'extrême grande joie. Voilà l'étoile. Guide-nous. Oh, enlève-nous de ces organisations. Conduis-nous à cette parfaite lumière. Nous conduisant vers l'ouest, toujours avançant. Guide-nous à cette parfaite lumière. Juste continuez. Et l'étoile vous guidera à cette lumière. Et finalement, elle resta au-dessus de l'enfant. Quand il... Dans seulement quelques minutes, très bien. Il s'est révélé lui-même au pauvre pécheur. Il fut révélé ce paquet, ce qu'il y avait à l'intérieur de cela. Il fut révélé aux pauvres pécheurs, aux ignorants, sans éducation. Il s'est révélé à des hommes qui ne pouvaient même pas écrire leur propre nom. Ils ne pouvaient pas être diacre ou quelque chose d'autre dans l'église. Ils ne pouvaient pas être cela. Ils étaient si ignorants. Oh, ma. Ils étaient terribles. Alors il s'est révélé lui-même à eux. Au non-désiré, ceux qui étaient rejetés, il s'est révélé lui-même à eux, à ceux qui n'étaient pas aimés. Il fut aimable envers ceux qui n'étaient pas aimés. Aux malades, ils avaient besoin de guérison, ils étaient consentants de regarder dans le paquet pour voir ce qui en était, il s'est révélé à eux. Et aux affamés, il les a nourris avec des pains et des poissons. Oh, nous pourrions rester, j'ai beaucoup de choses écrites sur cela, mais nous devons sauter par-dessus cela, voyez-vous. Il s'est révélé lui-même à tous ces gens. Ceux qui n'étaient pas aimés, quand personne les désirait, les appelait fanatiques, il s'est révélé lui-même à eux. Je suis si heureux que je peux dire que je suis l'un d'entre eux. Pas aimé, pas désiré, malade et dans le besoin, affamé, il s'est révélé lui-même. Oui, je pensais à une autre personne affamée. Un jour, il y avait un homme, au cœur affamé, appelé Paul, Saul, jadis. Il était sur la route pour Damas, affamé, il ne savait pas quoi faire, il voulait faire quelque chose pour Dieu. Une lumière brilla autour de lui. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il s'est révélé lui-même à Paul, au cœur affamé. À une femme de mauvaise vie, à un Barabbas condamné, il s'est révélé lui-même, c'est vrai. À un homme au cœur affamé, à une femme de mauvaise vie, à tous ceux qui furent rejetés. Je pense à cette femme de mauvaise vie. Juste un moment pour elle, s'il vous plaît. Soyez patient avec moi pour une minute. Simon le pharisien dans la Bible. Oh, il voulait connaître ce don aussi. Mais il voulait le connaître pour sa propre volonté égoïste, pour ses propres motifs égoïstes. Un pharisien. Alors qu'a-t-il fait? Il a eu un grand festin et il pensait qu'il pourrait faire du plaisir.
La Bible, l'histoire de l'Évangile nous le donne. Regardez-le juste pour une minute avant de terminer. Là, il a dit qu'il voudrait que Jésus vienne. Parce que je ne crois pas que ce pharisien aimait vraiment Jésus, car il n'avait rien en commun. Il était un vieux pharisien empesé, et il haïssait Jésus. Alors il pensait qu'il le ferait venir là, et qu'il lui ferait jouer quelques tours pour voir s'il était vraiment un prophète ou pas. Alors ils envoyaient, et ils lui ont demandé de venir. Le courrier est venu, et il courait, et probablement poussiéreux et tout, il a marché jusque là, et il s'est tenu aux côtés de Jésus. Probablement qu'il guérissait les gens, et qu'il continuait et qu'il était fatigué. Finalement, peut-être que c'est Pierre qui lui a dit, tu ne peux pas le voir aujourd'hui. Il a dit, mais monsieur, mon maître, c'est Rabbin Simon. Il est le pasteur de la plus grande église là en bas en Judée. Pourquoi vous? Il a invité votre maître à venir le voir. Oh, 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 quel grand nom ce sera pour lui, voyez-vous? Vous devriez le voir. Eh bien, dit-il, je vais te conduire voir ce qu'il dira. Alors il se fraya un chemin à travers la foule. Le soleil commençait à se coucher, et Jésus fatigué là, et voici que vient ce petit courrier. Et il, au lieu de, dans la présence de Christ, oh, je me suis souvent demandé ce qui n'allait pas avec ce courrier. Qu'est-ce qui n'allait pas avec lui? Se tenant si près de Jésus, et il avait quand même un message du pharisien. Mon maître veut que vous veniez le voir. Vous savez quoi? Il a une partie là-bas. Il veut que vous veniez être un invité d'honneur. Oh, j'aurais désiré avoir pu prendre ce message pour être si près de lui. Pas vous? N'aurais jamais pensé à ce que ce pharisien disait. Je serais tombé à ses pieds et j'aurais dit, oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi, un pécheur. Je crois que j'aurais dit cela. Pas vous? Comme il se tenait si près de Jésus. Et par contre, il a refusé l'occasion de lui demander pardon de son péché. Et si près de lui, non, il avait trop de choses en tête. Il était un serviteur. Il devait demander quelque chose pour le pharisien. Et Jésus, pauvre Jésus, bien que fatigué, hélas, il savait qu'il était méprisé, haï de lui. Il hocha sa tête et il dit, je serai là. Quand il dit qu'il sera là, il sera là. Ne vous inquiétez pas, il sera là. Rien n'arrêtera. Alors quand ils arrivèrent là-bas, ce jour-là, ils avaient tué tout leur beau gras, ils avaient sorti tout leur vin nouveau et tout. Et maintenant, les gens pauvres n'avaient pas le droit de venir là, alentour où ils étaient. Oh, quand ils rôtissent ce bœuf à l'extérieur, et ces choses, quelle odeur! Et ces pauvres gens, se tenant là, ayant simplement l'eau à la bouche, ils ne pouvaient pas entrer. Non, monsieur. Oui, c'était seulement pour les célébrités. Et alors, se tenant là, à l'extérieur, il y avait tous ces raisins, toutes ces choses. Tout là-dedans, le temps de la floraison, la plénitude des raisins, la belle senteur des raisins, vous savez, quand ils sont sucrés et tout. Il y avait ces vins nouveaux et tout cela. Je me suis souvent demandé comment Jésus a bien pu entrer là sans être aperçu. Vous savez bien, quand n'importe qui en Orient vous invite à venir à sa maison, vous savez qu'ils ont des gens formidables, ils sont des gens formidables pour l'hospitalité. Maintenant, les gens dans ce temps-là, quand ils marchaient, portaient des sandales. Et comme il le faisait, vous entendiez parler qu'il lavait les pieds. C'est ce que nous faisons ici en commémoration. C'était un ordre. Et quand quelqu'un vous demandait de venir à sa maison, ce serait quelque chose comme ceci. Il vous accueille à la porte et ensuite, ils ont ce qu'ils appellent le travail le plus bas de tous les gens. Quelques-uns conduisent des chariots, quelques-uns cuisinent, quelques-uns sont des chefs, vous savez, quelques-uns des intendants. Mais l'homme payé le moins cher de toute la maisonnée, c'était le domestique laveur de pieds. C'était juste un domestique. Et pensez, mon Seigneur était un domestique laveur de pieds. Et ensuite, nous pensons quelque chose. Nous pensons que nous sommes quelqu'un. Regardez-le, lavant les pieds des disciples. Des pêcheurs sales, des gardiens de moutons, et ainsi de suite. Il lava leurs pieds. Et ici, ce domestique laveur de pieds, quand vous arrivez à la porte, il doit vous laver les pieds parce que la poussière et les choses sont là sur vos jambes, et vous allez marcher, vous savez, par les chemins poussiéreux, où il y a les chevaux, les animaux, vous savez, et cela fait une puanteur partout autour de vous. Et ensuite, ce soleil, vous savez, c'est là tout autour de votre cou, ce soleil palestinien, ces rayons directs sont vraiment chauds. Et alors, quand ils arrivent à la porte, ils sortaient leurs pieds, là, ils lavaient leurs pieds, et ensuite rangeaient leurs sandales, les nettoyaient, les accrochaient, et leur mettaient une petite paire de pantoufles, comme les femmes en portent aujourd'hui, comme des pantoufles de chambre à coucher, vous savez, quelque chose comme ça. Et ils mettent ça. Et ensuite, pour laver leurs pieds, ensuite, ils avaient une serviette sur leur épaule. Et ensuite, que faisaient-ils? Ils essuyaient la poussière de leur visage. Ils prenaient de l'huile de nard. Oh, c'est quelque chose de très cher que les gens riches utilisaient. La reine du Midi en avait apporté, elle avait donné à Salomon, et cela est fait d'une pomme d'Orient, des Orients, comme une fleur, la petite pomme fleur, elle vient de là, c'est très cher. Et ils prenaient cette lavande, ils la mettaient partout sur leur visage, de l'huile comme cela, car leur cou était brûlé. Et ils prenaient une serviette, essuyaient tout cela, et ensuite ils étaient rafraîchis. Maintenant, c'est la première chose, le domestique, laveur de pieds, les prenait, les arrangeait comme ça. Bien sûr, il ne voulait pas vivre dans la maison d'un homme, là où il y a ces grands tapis faits en perte, et ainsi de suite, comme cela, sentant comme s'ils étaient dans une écurie. Et le soleil, et les ampoules partout sur leur visage. Non, ils étaient rafraîchis d'abord. Et ensuite, lorsqu'ils entraient, ils se rencontraient l'un l'autre. Et quand ils faisaient cela, toujours pour accueillir un invité, si vous étiez le bienvenu, ils vous donnaient la main comme ceci, frère Ed. Ils vous donnaient la main comme ceci, ensuite ils plaçaient vos... Levez-vous juste une minute. Je vais vous montrer quelque chose. Ils plaçaient leurs bras au-dessus de lui. Frère Branham fait une illustration et tape Fred Ed quelquefois sur le dos. Non, le légitère. Et puis ensuite, comme cela, il lui serre la main. Frère Branham tape encore Fred Ed quelquefois dans le dos. Non, le légitère. Et c'est de cette manière qu'il le faisait. C'est une bienvenue. Alors vous étiez un frère, vous vous sentiez bien, vos pieds étaient lavés, vous étiez loin partout. Et ensuite, la prochaine chose qu'il faisait, il s'embrassait l'un l'autre dans le cou. Et ça les rendait comme vraiment bienvenus. Cette dernière chose, c'était le baiser de bienvenue. Rappelez-vous, Judas donna ce baiser de bienvenue à Jésus. Et il dit, pourquoi tu fais cela, ami? Voyez-vous, il connaissait son cœur. Alors, il se souhaitait la bienvenue. Cela ne vous tentait pas de rentrer avec de la poussière partout sur vous, et cette vieille puanteur partout sur votre visage et sur vos jambes, et ces choses, ce vieux vêtement qui pendait, qui ramassait la poussière pendant que vous marchiez, quand vous marchiez. Il ne voulait pas entrer. Mais quand vous étiez tout rafraîchi, et ensuite quand il arrivait, et votre invité, vous étiez un invité d'honneur, ensuite quand il arrivait, il vous souhaitait la bienvenue, vous donnait un baiser sous le cou, alors vous étiez un frère. Entrez donc, vous allez au réfrigérateur, vous vous prenez un sandwich, n'importe quoi. Vous étiez bienvenu alors. Vous entriez comme le bienvenu. Mais comment Jésus a-t-il pu entrer sans que tout cela ne lui soit fait? Voyez-vous, il était assis là, dans le coin, avec les pieds sales. Pas bienvenu. Probablement que le pharisien parlait d'autre chose, vous savez. Il n'a même pas remarqué que Jésus entra. C'est ce qui ne va pas avec les églises aujourd'hui. Trop de nos églises de pharisiens, la puissance de Dieu vient et ils ne le remarquent pas. Voyez-vous, il serait content de faire quelque chose, mais il n'est jamais accueilli comme étant le bienvenu. Et voilà, il était là, peut-être là-bas, peut-être qu'il racontait des... Certains racontaient des histoires et qu'ils avaient un grand temps avec le pasteur rabbin et rabbin tel et tel là-bas. Ils n'ont même pas remarqué Jésus. Et il a dû se profiler et s'asseoir dans un coin quelque part. Je peux le voir là, avec ses pieds sales, son cou plein d'ampoules, pas de baiser de bienvenue. Oh, cela ne fait-il pas se sentir drôle? Jésus avec les pieds sales. Il l'appelle là-bas Jésus ou Jésus disant Jésus avec les pieds sales, assis dans le coin. Oh Dieu, comment cela peut-il être? Personne ne portant attention à lui, mais une petite prostituée, oh ma, une femme de mauvaise vie, elle s'était aventurée à passer. Peut-être qu'elle était, il n'y avait personne en ville, tout le monde était parti au festin, toutes les célébrités, alors ses affaires étaient devenues très pauvres. Alors elle découvrit quelque chose, qu'est-ce que tout ceci, ici, à la maison du pharisien, pourquoi tout cela? Alors elle est là-bas. Elle a probablement regardé par la fente dans la clôture, regardant alentour. Oh, elle s'en donna à regarder dans le coin. Elle l'a vu assis là, avec sa tête penchée, ses pieds sales, son cou plein d'ampoules, pas accueilli, personne ne portant attention à lui. Mais ce fut révélé à elle. Oh, je puis la voir, se frotter les yeux et dire, est-ce lui? C'est ce même homme qui a épargné une femme, tout comme moi une fois, quand elle fut traînée là en dehors par cette église. Ils étaient là, venu pour la lapider à mort. Et il a dit, femme, où sont tes accusateurs? Ce doit être lui. Vous voyez, la foi vient de ce qu'on entend, et ça lui fut révélé que c'était lui. Elle dit, mais regardez, il n'est pas accueilli, il a les pieds sales, que puis-je faire à propos de cela? Je suis une femme, et si j'arrive à entrer là et dire quelque chose, mais il me jetterait dehors, il me renverrait à l'un de ses bas, je suis une femme de mauvaise vie. Et il saurait que je suis de mauvaise vie. Il saurait que je suis une mauvaise femme. Alors quoi, que puis-je faire à propos de cela? Je puis l'avoir tourné, marcher là autour et dire, oh, je dois faire quelque chose. Il n'est pas accueilli, mais quelque chose me révèle que c'est de la seule manière que j'aurai la vie. Nous y voilà. Oh frère, je veux voir ce qu'il y a dans le paquet. Je sais qu'il y a quelque chose là-dedans qui pardonnera mes péchés. Et bien que je sois une prostituée, bien que je sois méchante, je veux regarder dans ce paquet de Noël. Je sais qu'il y a quelque chose là pour moi. Il y a quelque chose pour tous. Et c'est vrai, amis pécheurs. Il y a quelque chose pour le joueur, il y a quelque chose pour le menteur, il y a quelque chose pour chaque personne, il y a quelque chose dans ce paquet de Noël pour vous. Ne le poussez pas de côté. Comment un pharisien, un homme insensé, a pris le brillant et il a jeté le cadeau. Quelle chose pitoyable. Le voici qui vient. Il est assis là-bas. Cette pauvre petite femme, peut-être qu'elle descend la maison où elle demeure. Elle monte les vieilles marches qui craquent là-haut. Elle tend le bras vers son bas ou quelque chose d'autre. Elle prend l'argent. Elle dit, oh, que puis-je faire? Maintenant, attends une minute. Je ferais mieux de remettre ceci. Parce qu'il va savoir que je suis une femme de mauvaise vie. Mais c'est mon seul espoir. C'est la seule chose que je puisse faire. Je ne suis pas invité à ce festin. Mais par contre, je dois arriver jusqu'à lui. Oh, je souhaite que les gens puissent voir cela ce soir. Arriver à lui ou périssez. Quelle différence ça peut-il faire? Vous êtes appelé saint comédien, vous êtes mis dehors, quelle autre différence? Arrivez jusqu'à lui, c'est votre seul espoir. Elle descendit, elle prit ceci. Je puis voir un de ces types juifs là-bas disant que les affaires n'allaient pas bien, assis là au fond, comptant son argent, tout le monde était parti au festin et tout. Cette femme entra. Eh bien, que faites-vous ici? Elle versa ses dinars romains sur le comptoir environ 30 pièces de cela. Ah ah, que voulez-vous madame? Voyez-vous, cela rendait la chose différente. Il a vu ce qu'elle était, mais quand il a vu qu'elle avait de l'argent, c'est différent, voyez. C'est le monde aujourd'hui. Si vous avez de l'argent, vous êtes un grand monsieur. Si vous n'en avez pas, vous êtes rien. Oh, mais c'est différent. Que voulez-vous, madame? Je veux le meilleur parfum de nard que vous avez. C'est tout ce que j'ai. Laissez-moi le compter 30 pièces de cela pour vous. Oh, oui, cela pour acheter cette bouteille-ci, c'est la meilleure. Eh bien, je la veux. Vous voulez dire que vous voulez acheter de l'huile? Je le veux. Je veux tout le flacon. C'est tout ce qu'elle avait. C'est ce que vous devez faire, frère. Cela coûte chaque péché que vous avez. Cela coûte tout. Mais soyez consentant de le donner. Alors elle se glisse dans la clôture. Je puis la voir. Regardez par là. Elle le voit. Assis là. Personne ne l'avait encore touché. Le pasteur parisien, là-bas encore, racontant ses histoires sales et ses choses là-bas, avec le reste d'entre eux, se conduisant avec sottise, parlant d'une grande chose, quelque part ne sachant pas. Il n'avait même pas remarqué notre précieux Seigneur. Elle dit, comment suis-je entré? Alors maintenant, je la vois se glisser là, très doucement, se rendant là, où il est, comme cela, et regardant en haut vers lui. Je puis la voir avec les larmes coulant de son visage, ses grands yeux bruns le regardant comme cela. Elle cogna le flacon, elle en fit sortir longuement, le versa sur ses pieds. Elle n'était pas venu pour laisser Jésus assis là avec les pieds sales. Vous dites, je ne le ferai pas non plus. Pourquoi ne faites-vous donc pas quelque chose donc à propos de cela? Il a le pire nom qu'il y a dans le pays aujourd'hui. Saint comédien, fanatique religieux, pourquoi ne faites-vous pas quelque chose à ce sujet? Levez-vous et dites, je prendrai le chemin avec les quelques méprisés du Seigneur. Je suis prêt à recevoir ce paquet. Elle versa l'huile sur ses pieds. Toute la chambre s'illumina avec cela. C'était très cher. Il n'y a rien de trop bon pour Jésus. Donnez-lui votre meilleur. Donnez-lui tout ce que vous avez. Votre vie, votre âme, votre être, votre temps. Tout ce que vous avez, donnez-le à lui. Elle s'adonna à le regarder. Elle se tenait là. Oh. Elle versa cette huile sur sa tête. Ensuite, elle s'inclina vers ses pieds. Comment ça? Oh. Elle ramassa ses pieds. Elle regarda. Ils étaient là. Elle n'avait rien qu'elle. Elle commença à penser à ses péchés. Elle dit, sûrement, il me condamnera. Alors, quand elle eut mis l'huile sur son cou et qu'elle lui frottait, ensuite elle se pencha là, elle a saisi ses pieds. Elle tomba à terre. Elle commença à pleurer. Oh, je suis une telle pécheresse de me tenir devant cet homme. Je suis une telle pécheresse. Elle regarda là en haut. Et ses beaux grands yeux. Elle pensa, il va bien me sortir de cette chambre à coups de pied. Mais il n'a jamais bougé. Il s'est juste assis là. Il la regardait. Oh, j'aime cela. Il resta simplement assis là. Et il la regarda. Oh, il connaît mon cœur. Je puis le sentir maintenant, lisant directement dans ma pensée. Il sait que je ne suis pas bonne. Je le sais, Seigneur. Mais je ne puis endurer de te voir avec les pieds sales. Je ne puis endurer cela. Tu es mon seul espoir. Je ne puis endurer cela. Quelle belle eau pour ses pieds. Oh, des larmes de repentance. Oh, oh, le vieux pharisien ne pouvait rien produire comme cela. Des eaux, des larmes coulant de ses joues. Elle commença à les frotter. Et frère Branham fait des sons de baiser, noble éditeur. Embrassant ses pieds. Oh, c'était son Seigneur. Embrassant ses pieds. Elle n'avait pas de serviette pour les essuyer. Alors je suppose que ses boucles qu'elle avait faites sur le dessus de sa tête ont dû tomber parce qu'elle prit ses cheveux. Elle commença à essuyer ses pieds avec ses cheveux et en brassant ses pieds disant « Seigneur, tu sais, Seigneur, tu sais, je suis une pécheresse. Je déteste être ici devant toi comme cela, mais je ne puis endurer de te voir avec les pieds sales. » Oh my, Jésus aux pieds sales, pas accueilli, pas de baiser sur son cou. Elle embrassait même ses pieds. Seigneur, maintenant, Seigneur, oh Seigneur, je suis une pécheresse. Tu sais que je le suis, Seigneur. Et environ, à ce moment-là, le vieux pharisien s'est retourné. Il a dit, maintenant, regardez là-bas, cela sort de compagnie, et que cela que vous appelez le Saint-Esprit, voyez-vous? Ils n'ont pas changé. Regardez ce que c'est. Regardez le genre de personnes avec lesquelles ils s'associent. Vous parlez de ce Saint-Esprit de la guérison divine? Mais qu'est-ce? C'est l'ordure de la ville. Sûrement, c'est à qui cela est révélé. Elle savait ce qu'il y avait dans ce paquet. Elle savait le seul moment, n'importe quel moment, qu'elle pouvait arriver quelque part. Elle ne pouvait pas aller aux pharisiens. Ils l'auraient jetée hors de l'église. Pas. Elle n'était pas de son rang de société. Mais il y avait une société pour le pécheur. Je suis si heureux de cela. Il y a un endroit où un pécheur peut venir. Il y a un baume en Galade qui guérira complètement les blessés. Elle l'avait trouvé. Elle voulait connaître ce don. Elle embrassait ses pieds. Et un vieux pharisien a dit, « Ah, venez ici, les gaillards. Ah, voilà votre prophète. » Voyez, s'il était n'importe quelle sorte de prophète, il saurait quelle sorte de femme lave ses pieds. Regardez-la, parlez de fanatisme. Cela déshonore ma maison. Jésus n'a jamais dit un mot. Il s'est seulement tenu là, surveillant la femme. Mais après quelque temps, il savait ce que leurs pharisiens pensaient. Alors il s'est levé. Cette femme, je puis la voir. Oh, oh, voici mon temps. Il me condamnera. Il me jettera dehors de sa maison. Je le vois se tenir debout, regarder comme ça. Il se sent assez bien maintenant. Ses pieds lavés par les larmes. Oh Dieu, prends les miennes. Ses pieds lavés avec des larmes de repentance, un cœur sincère, bien qu'elle était si immorale qu'elle le fût, pour la seule fois à une fontaine où elle pouvait être lavée propre, la voilà. Assise là, regardant à son visage, je puis la voir avec les larmes coulant de son visage comme cela, tachée de partout ses boucles toutes défaites, pleines de larmes et de la saleté de ses pieds. Elle se tenait là, se demandant, qu'est-ce qui va m'arriver? Il me jettera dehors, il me fera jeter en prison par eux, parce que je suis venu ici. Alors, il s'est tenu debout comme cela. Il dit, Simon, j'ai un mot à te dire. Tu m'as invité dans ta maison, et quand je suis entré, tu ne m'as même pas donné d'eau pour mes pieds. J'aurais pu laver mes propres pieds, mais tu ne m'as même pas donné l'eau pour le faire. Oh Dieu, tu ne m'as jamais donné d'huile pour oindre mon cou, quand cela brûlait. Tu n'as pas fait cela, Simon. Tu ne m'as pas embrassé non plus. Tu ne m'as pas fait me sentir accueilli. Mais cette femme, elle a lavé mes pieds avec ses larmes. Elle a embrassé mes pieds. Elle n'a pas cessé de le faire depuis qu'elle est entrée ici. J'ai quelque chose contre toi, Simon. Mais elle, était-il le prophète ou non? Je lui ai dit que ses nombreux péchés lui sont pardonnés. Oh Dieu, qu'est-ce que c'était? Elle a découvert ce qu'il y avait dans ce paquet cadeau. Elle a découvert qu'il y avait l'amour. Elle a découvert qu'il y avait le pardon. Elle avait vu cela. Oh, comme elle a vu ce précieux don de Dieu œuvrer sur elle. Comme, combien cela a dû la faire se ressentir quand elle a vu que le don de Dieu lui était accordé. Ses péchés lui étaient pardonnés. Comment Barabbas a dû se sentir ce jour-là. Vous connaissez Barabbas, vous connaissez son histoire. Barabbas était ce bandit qui fut attrapé, jeté dans les galères. Il devait mourir le matin suivant. Il était un voleur, il était un bandit, il était un meurtrier. Il était un criminel. Et tout le long du soir, il marchait de long en large dans cette prison, s'arrachant les cheveux, car le matin suivant, il devait aller à une croix, la peine capitale. Il allait mourir, comme les cauchemars passaient sur lui ce soir-là. Il ne pouvait même pas se reposer. Et le matin suivant, pas de déjeuner, ou rien, sachant que son sang serait répandu, comme parmi les loups. Et tout à coup, il entend les chaînes fracasser. Le bonhomme s'est laissé, les bruits marchant avec ses pieds dans les lumières. C'était la marche des soldats. Voici 4 ou 5 qui viennent, ou peut-être un bataillon de soldats romains, les épées étincelantes marchant là-haut. Et le gros geôlier tourne à l'église, dit, sors de là, Barabbas. Oh, ne me tuez pas, ayez pitié. Mais Barabbas, il n'y a rien de mal, tu es libre. Je suis quoi? Tu es libre. Comment suis-je devenu libre? Regarde, il pointa là en haut de ce côté, ce que cela a dû représenter pour Barabbas, quand il a vu le don qui a pris sa place dans la mort. Je me sentais de la même manière. Le don de Dieu a pris ma place dans la mort, comme ce voleur mourant sur la croix, cloué là-haut. Le voleur mourant s'est réjoui de voir cette fontaine en son jour, et là je puis, malgré que je sois civil, laver tous mes péchés. Oh oui. Depuis que par la foi j'ai vu ce ruisseau qui était révélé pour moi, des blessures abondantes ont suffi, l'amour qui est rédempteur a été mon thème, et le sera jusqu'à ce que je meure, c'est vrai, oh. En terminant, puis-je dire ceci, aujourd'hui Noël représente un carton de Camels, un carton de Vice-Roi, une bouteille de Four Roses ou Sigram enveloppée dans un beau papier de Père Noël. Mais il refuse quand même le cadeau de Noël de Dieu. Il refuse encore son cadeau de Noël. Ils ne le veulent pas. Mais je le veux. Je suis heureux de l'avoir reçu. Oh, Emmanuel, Dieu fait chair. Il habita parmi nous, rejeté, condamné tout le long des âges. Et sa miséricorde s'étend aujourd'hui à chaque cœur qui le recevra. Inclinons nos têtes juste un moment. Je me demande ce soir, dans ce bâtiment, dans ce temps de Noël, en commémoration d'il y a environ 2000 ans, quand Dieu donna son premier cadeau de Noël. Je me demande ce soir si vous aimeriez regarder à l'intérieur de ce paquet et voir, pécheur, s'il n'y a pas quelqu'un là-dedans qui vous aime. Quelqu'un qui est mort pour vous. Quelqu'un qui a donné sa vie pour vous. Seriez-vous consentant ce soir d'enlever le linge qui le recouvre? Cette époque sale qu'ils appellent fanatisme saint-comédien, vous enveloppez dedans et prendre le chemin avec les quelques méprisés du Seigneur. Si vous êtes dans le bâtiment ce soir, voudriez-vous que l'on se souvienne de vous dans la prière? Voudriez-vous juste lever votre main et dire, en ce soir de Noël, je veux recevoir le cadeau de Noël de Dieu, le vrai cadeau de Noël de Dieu. Que Dieu vous bénisse, madame. Dieu te bénisse, fillette. Dieu vous bénisse, sœur. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, jeune femme là-bas. Y en a-t-il d'autres qui voudraient que l'on se souvienne d'eux dans la prière? Que le Seigneur vous bénisse, mon frère. Quelqu'un d'autre? Seigneur, je vais prendre ce chemin. Je ne te verrai plus jamais assis avec les pieds sales. Non plus. Je ne me tiendrai plus. Je me joindrai avec eux. Je viendrai directement dans le royaume de Dieu. Je serai l'un de ceux qui sont méprisés. Demeure en moi, Seigneur. Viens, viens à la maison avec moi ce soir. Je veux laver toute la saleté de ton nom. Car tu as lavé mes péchés, Seigneur. Laisse-moi vivre la vie. Pas de la manière que je le fais maintenant, je salis la tienne. Je te salis chaque jour en mettant plus sur toi. Laisse-moi partir ce soir, Seigneur. Et avec des larmes de repentance, je viens maintenant humblement au pied de la croix pour te recevoir comme mon sauveur. Y en a-t-il un autre avant que nous prions? Alors levez simplement la main. Très bien. Précieux Seigneur, Nous conduisons à toi ce soir. Il semble qu'il y avait plusieurs femmes ce soir, Seigneur, qui ont levé leurs mains. Peut-être qu'elles aussi peuvent regarder là en bas. Quelques-unes sont de jeunes filles, seulement des adolescentes, qui ont levé leurs mains. Elles sont sincères, Seigneur. Elles ne veulent pas être condamnées avec le monde. Ils veulent te recevoir maintenant, en ce temps de Noël, pour regarder dans ce paquet de Noël, recevoir la vie éternelle. Accorde-le, Seigneur, simplement maintenant, que tu ouvres pour eux le pardon de leurs péchés, que tu ouvres pour eux une fontaine de la maison de David, qui est ouverte pour le péché et la saleté là où les pécheurs y plongent, et quand ils plongent sous ce flot, ils perdent toutes leurs taches de culpabilité. Accorde-le, Seigneur, va à la maison avec eux, demeure avec eux ce soir, Seigneur, rends la vie pour eux ce qu'elle devrait être, Seigneur, accorde-le, guéris les malades et les affligés parmi nous, tu es le secours pour les sans-secours, tu es celui, Seigneur, qui peut faire là où d'autres ne peuvent rien faire, tu es la grâce qui demeure, tu es le don de Dieu, et nous te croyons humblement, Seigneur, nous suivons l'étoile du jour, nous suivons la lumière jusqu'à ce qu'elle nous guide à cette lumière parfaite. Le don de Dieu, la vie éternelle par le baptême du Saint-Esprit, accorde-le, Seigneur. Je te les remets maintenant au nom de Jésus-Christ. Prends leurs âmes ce soir et lave-la dans le sang cramoisi du calvaire. Car nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Seigneur, demeure avec moi. Les aides échouent pour me réconforter, et dans la vie ou dans la mort, ô Seigneur, demeure avec moi. L'aimez-vous de tout votre cœur? Une autre fois, pour l'amour du bon vieux temps, chantons « je l'aime, parce qu'il m'a aimé le premier ». Je l'aime, ô tout le monde maintenant, ô je l'aime, parce qu'il, levons nos mains vers lui maintenant, parce qu'il m'a aimé, et il a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Maintenant, je veux que vous serriez la main avec quelqu'un en avant ou en arrière ou à côté maintenant. Et frère Branham, serrez les mains, notre Église. Oh, je l'aime, parce qu'il m'a aimé le premier, et il a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Tous ceux qui ont reçu le cadeau de Noël de Dieu, juste levez vos mains. Oh, je l'aime, parce qu'il m'a aimé le premier, et il a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Ne l'aimez-vous pas? N'est-il pas merveilleux? Très bien, pendant que nous nous levons tous, prenons le nom de Jésus avec nous, enfant de tristesse et de malheur. Il vous donnera le confort et la joie. Prenez-le partout où vous allez. Précieux nom, ô tellement doux, espoir de la terre et joie du ciel. Précieux nom, ô tellement doux, espoir de la terre et joie du ciel. Lentement, juste maintenant, quand chantons, prenez le nom de Jésus avec nous.